Bienvenue dans le Pit Stop. Denis Gravel qui est absent pour la semaine. C'est Pascal CV qui a levé la main en disant « Je suis capable, moi aussi. Mais... dégage, Gravel. »
Oh, c'est pas drôle de dire ça de même. On l'a comme ça avant de rentrer en nombre que Gravel nous désertait.
Donc, je vous annonce que Gravel, c'est fini. La nouvelle animatrice du retour. C'est l'heure CV de 14h jusqu'à 18h.
Arrête, Véro, travaille.
Félicitations pour ton nouveau poste.
Oui, c'est ça. Le monde va faire sa prestisso, à bas CV, dehors CV.
Ben non. Hey, il y avait deux conférences de presse attendues ce matin.
Ouais, il y en a une que j'ai pas de nouvelles, puis je suis un peu fascinée par ça. C'en était une de Bruno Marchand. Écoute, je suis là-dessus depuis ce matin parce qu'on parlait de logement. On invitait les médias pour une conférence de presse. C'était tôt, c'était à 10h. Puis ça parlait de création de logements ici pour la ville de Québec. Donc, pour l'occasion, on avait divers personnes là, qui étaient dans le milieu de vie, l'habitation, l'immobilier, entre autres qui prenaient la parole. On disait que le stationnement était gratuit pour l'événement. Ça me fait rire parce que de plus en plus, les points de presse, c'est pas partout où tu as du stationnement gratuit. Sauf que j'attends encore de savoir ce qui en est découlé. Il y aura aussi d'autres petites prises de parole pour la mairie de Québec au courant de l'après-midi, notre collègue Mathias Siva.
Tu sais, je sais pas, vous autres, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Répondez-moi au 88-971-1021, mais l'immobilier, ça devrait pas être une affaire de gouvernement. Et je m'explique. Oui, le gouvernement doit s'impliquer pour octroyer des subventions pour bâtir, exemple, je sais pas moi, des édifices où les loyers ils seront plus bas que les autres endroits. Mais laisser les entrepreneurs et les entrepreneuses au privé être capables de gérer ces édifices-là. Moi, je suis né dans un endroit où j'étais entouré de HLM.
OK. Ouais, HLM.
Puis tu sais, il y en a un qu'on voit d'ici là, il est coin Marie de l'Incarnation puis boulevard Amel, c'est un trou à marde. Puis c'est géré par le gouvernement. Bon, ils vont dire non mais c'est des non mais c'est géré par le gouvernement. Puis c'est infesté des fois de bébites. Je parle pas de cet immeuble-là en particulier, mais tu sais, j'allais visiter ces loyers-là parce que c'était mes amis qui habitaient là-dedans et tout était détruit. Il y a certains secteurs où, sur un étage, il y avait 4 logements du fond où il y avait un gars qui était en veille puis que tu n'avais pas accès aux quatre logements si tu n'avais pas affaire là. Il y avait des gens qui offraient leur charme, là, je pense, dans ces logements-là et tout ça.
Okay.
Quand le gouvernement touche à quelque chose, là, ça vire tout le temps en crotte. J'aimerais que ce soit les femmes et les hommes entrepreneurs au Québec qui prennent en charge ces histoires-là, puis que la ville facilite
la construction, l'élaboration de plans. Ouais.
L'élaboration, puis s'il y a subvention, il y a, bien qu'il y ait subvention.
Comme avec les Trudelles, entre autres.
Exact. Mm. Mais que la ville gère ou que la province de Québec gère. Je veux que le gouvernement se retire de ça. Ils sont pas bons.
La lumière là, que tu allumes en ce moment par rapport, surtout au provincial, mettons, là, sur le logement, là, est importante parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas le temps de le gérer, ce qui fait en sorte que ton trou sombre que tu parles dans certains endroits qui ont été construits et gérés par le gouvernement, mais aide même pas. Leur mission initiale, c'est d'offrir des logements à peut-être moindre prix à des gens qui en arrachent pour leur permettre d'aller plus loin dans la vie, leur permettre de se retourner de bord, avoir peut-être des finances un petit peu moins saignantes, puis être capable pour leurs enfants, pour leur famille et eux-mêmes, de se reprendre en main.
Ouais,
mais dans
cette
gestion-là,
c'est une clientèle particulière parce qu'à Montréal, il y a eu des reportages, je pense que c'est TVA qui avait fait le reportage, où c'était carrément sur Sainte-Catherine, c'était des loyers à prix modique qui étaient gérés par la ville. Puis dans un corridor, là, ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas eu de lumière.
Ça n'avait pas de sens.
Parce que la ville ne payait pas pour mettre des lumières au plafond. Puis les résidents, ben, c'est des gens qui ne sont pas super bien nantis. Puis il y a des enjeux de santé mentale. Ouais. Ils ne pensaient pas aller chez Jean Coutu chercher l'ampoule. Puis après ça, visser ça au plafond.
Puis après, tu peux te poser la question dans cette gestion-là, Yann, versus celle que tu dis au privé. Tu sais, l'encadrement puis le choix des locataires de mélanger peut-être le style de personne dans la vie au sein de ces bâtiments-là et s'assurer d'avoir une bonne gestion, ça va les aider.
Le gouvernement peut faire ça. Le gouvernement, Isabelle, ma conjointe, c'est sa job. Elle va vérifier dans des CHSLD si on traite bien les patients. Elle va dans des RPA, résidences pour aînés, si les patients sont bien traités et si les infirmières ou les préposés aux bénéficiaires qui sont à l'intérieur de ces RPA-là, ben, ils s'occupent bien des gens. Ça pourrait être la même affaire. L'entrepreneur privé, homme-femme, on s'en fout, il érige une bâtisse, il y a des locataires, il gère tout de A jusqu'à Z, mais il y a des gens qui travaillent pour la ville ou encore pour le gouvernement provincial qui vont vérifier si la bâtisse est bien gérée.
D'avoir un entretien, puis d'avoir... Mais tu sais, on manque de personnel, semble-t-il. Pourtant, des fonctionnaires qui, pour certains, les tâches sont pas assez complètes sur leur horaire. Mais tu as raison que de le donner au privé en ce moment, ce serait adéquat, ben même oui. de les pousser à se développer. Tu enrichirais aussi une partie de l'économie de cette manière-là.
Exact. Puis c'est pas, tu sais, les entrepreneurs privés, c'est pas les syndiqués. Là.
Non,
fait que tu dois les forcer à être meilleurs parce que sinon, ils pourront plus faire affaire. Puis ils vont perdre, tiens, la gestion de cette bâtisse-là.
Puis au pire, comme tu évoquais partiellement, puis je renchéris là-dessus, la subvention est allouée si le projet fait un certain sens.
Exact.
Puis avec un genre de récapitulatif annuel. Sur où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous méritez cette subvention-là? Est-ce que vous êtes une compagnie qui gère bien les logements? Mais, parenthèse, j'ai oublié de te parler de quelque chose là, qui est arrivé à mon voisin. Je vis dans un genre de quartier qui est familial. Je comprends, je suis à Limoilou, mais c'est familial. Je te dis, t'es là avec tes enfants, t'as pas peur. C'est un beau secteur de Limoilou dans celui où je suis, OK? Mais mon voisin en bas, il est en train de lui acheter une maison, puis il fait des boîtes. Fait que ça paraît qu'il y a des boîtes dans... Bien, ils ont été cognés chez lui, deux personnes en situation d'itinérance, pour demander s'ils louaient une chambre, sans budget, là, juste sans vouloir dire, « Je peux-tu habiter chez toi? Je peux-tu habiter dans cette chambre-là? » Je l'ai vu qu'elle était vide ou qu'il y avait juste des boîtes.
Hey, okay.
Je n'avais jamais entendu une telle histoire. Là, je te parle de mon bloc, là. Fait que là, on parle pas juste de logement où des gens vont payer pour habiter, mais cette crise du logement-là est quand même assez importante. La crise de l'itinérance est tellement importante que c'est rendu que certaines personnes veulent s'en sortir en essayant de trouver un logement chez quelqu'un qui a vu dans la fenêtre qui avait peut-être de la place.
Tu sais, il reste des endroits pour te loger, là. Exemple, les condos, tout compris.
Mm-hmm.
Mais là, c'est du 2000 par mois, tellement c'est du 3000 par mois. J'en ai vu à Lévis, des condos, comment ils appellent ça? Mais c'est vraiment des condos de luxe, là. Mais t'as la grosse terrasse en haut. T'as l'air de vivre dans un resort 5 étoiles.
Avec un gym.
C'est tout fenestré. Le gym est compris. L'Internet est compris. Eau chaude, tout ça. Mais c'est 5000 piastres par mois.
Mais je comprends pas quand t'as 5000. Non. T'sais, dans l'hypothèque. Dans...
Ben,
où tu achètes. Mais
quand
tu
as les moyens.
Je sais pas.
Tu sais, moi, je suis tanné des fois de pelleter chez nous. Là. Je l'ai donné à contrat chez nous, là, la cour au complet, parce qu'il y avait beaucoup de... Tu peux rentrer 10 chars, mettons. Fait que, tu sais, je voulais pas faire ça moi-même. Ça me tente pas, j'ai pas le temps. Fait que je payais entre 600 et 800 piastres pour pouvoir déneiger ce stationnement-là. Mais quand tu es tanné de ça, quand toi, tu veux juste une chute à déchets plutôt que des maudits bacs, il faut que tu penses à aller porter au chemin parce que ça passe juste aux deux semaines. Quand t'es tanné de faire de multiples paiements, t'en as juste un à faire, ton Internet est fourni, l'électricité est fournie, tu te casses pas la tête. Stationnement souterrain?
Stationnement souterrain? Tu n'as jamais ton auto et ta chaleur.
La chaleur.
Valeur baisse pas parce qu'elle est bien entretenue dans la chaleur.
C'est ça. J'ai un collègue ici, bon, il habite pas dans un immeuble comme ça, là, mais lui, il met pas de manteau. L'hiver.
Ouais, mais ça, c'est stupide.
Il en traîne un dans son char.
Ah, il y en a un?
Il y en a un dans son char, puis il doit plaire. Ça doit être poussiéreux, mais... C'est ça son hiver. Là.
Ouais, mon amie est partie de Montréal pour venir chez nous. Là. En hiver, cet hiver, elle n'avait pas de manteau parce qu'elle avait un stationnement souterrain. J'ai dit, excuse-moi, tu pognes un accident sur la 20, Alex. Là. T'as rien. Là.
Ouais.
Une brillante pharmacienne, elle arrive sans manteau.
Mais là, c'est la fille de pompier qui parle.
Peut-être que j'y pense à cause de ça.
Mais c'est la meilleure des affaires que tu peux dire à quelqu'un à qui tu tiens. T'sais. Puis mon gars, là, mon plus jeune, il a tout le temps chaud, lui. Puis depuis qu'il est jeune, il a chaud. Fait que quand il embarque dans le char, il a tout le temps tendance à... Été comme hiver, tout le temps tendance à enlever du linge sur le dos. Fait que là, je me revire, d'un coup, il est en t-shirt.
Il est presque tout nu dans l'auto.
Puis là, je dis à Isaac, mais c'est parce qu'Isaac, si on se plante, puis je me suis planté avec lui en plus, si on se plante, puis ça prend 20 minutes avant qu'il nous secoue, là, toi, tu meurs de froid. Là.
Ouais.
Mais ça rentre pas dans leur tête.
Puis là, mettons, il faut le vivre pour changer des habitudes. Ouais. C'est peut-être pas la bonne idée dans ce cas-ci.
Donc, il y a une conférence de presse de la Ville de Québec. On va vous en parler dans les prochaines minutes. Sinon, Éric Duhaime aussi avait une conférence de presse.
11h45, lui, il vient de demander l'abolition immédiate de la taxe carbone à François Legault. Puis on aura sa visite tantôt à l'émission.
Parfait. On parlait des pourboires. Là, avec la nouvelle façon de calculer les pourboires, les serveurs et les serveuses du Québec sont en beau fusil. Je regardais un reportage en fin de semaine, c'est Maude Larrain-Kieran dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui avait fait ce reportage-là. Pour un serveur temps plein, Pascal, ça pourrait représenter entre 10 000 et 12 000 $ de moins par année.
J'ai fait un petit calcul rapide dans ma tête, puis c'est quand même une bonne partie de ton budget pour une job qui est un peu précaire sur le pourboire, dans le sens où tu ne sais jamais exactement ce que tu vas faire. Par contre, ça ne me rend pas du tout dans le clan D, ça aurait pas dû changer. Parce que payer du pourboire sur une taxe, c'était inconcevable à base. Fait que je suis pas capable de me ranger et faire « Oh, c'est dommage. » Mais en même temps, c'est un changement de paradigme complet pour un serveur, une serveuse qui doit revoir son budget, j'ai l'impression, de façon importante, hein, jusqu'à 10 000 $ de moins annuellement. Puis ça, c'est quand c'est précaire aussi comme job.
Ça dépend où tu travailles, parce que des fois, tu travailles dans des restaurants qui sont vraiment achalandés tout le temps, tout le temps. Puis des fois, tu travailles dans un restaurant où tu peux peut-être faire 35 $ de pourboire dans ta soirée, là. Faut y penser à ça. Puis moi, ayant travaillé dans la restauration une bonne partie de ma vie, j'ai tout flambé cet argent-là, vous comprenez?
Oui, mais t'étais jeune, mais tu devais faire une couple de centaines de piastres par jour, parce que pour l'avoir tenté, la restauration, des fois, quelque part où ça roule un peu bas.
Ça
là.
Pouvait varier. Mettons que je me fie sur moi puis mes amis qui étaient autour de moi, là, donc ça inclut les serveurs, les barmaids, les barman, là. Ça pouvait varier entre 200 $ puis 600 $ cash par soir.
OK.
Mais j'ai tout le temps travaillé dans des places où ça virait, là.
Moi, je te dirais que le relais de motoneige, là...
C'était payant aussi.
J'ai fait une couple de restaurants. Ça a été... Mais tu sais, parce que t'es tellement sûr de faire de l'argent comme de l'eau.
Ouais.
Presque tous les soirs où tu travailles.
Fait qu'entre 200 et 600 $ c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Hey!
Mais si tu travailles à la cantine du coin... Puis
c'était
toi,
10 $ de type par jour, même pas.
Si tu fais 50 piastres de pourboire par jour, puis... Faut se rappeler que les travailleurs pourboire sont pas payés au même titre que les travailleurs réguliers.
C'est même pas le salaire minimum.
C'est plus bas que le salaire minimum.
Ouais. Faut que tu déclares. Dans le temps, c'était 8 % maintenant, c'est combien?
Fait que ça fait des mécontents. Moi, c'est dans mon temps, j'ai commencé, moi, tu déclarais ce que tu voulais.
Okay.
Puis après ça, ils ont eu une modification dans la loi où tu devais déclarer 8 % de tes pourboires minimum.
Oui.
Mais techniquement, ce que la loi dit, c'est que tu es obligé de déclarer 100 % de tes pourboires. Mm-hmm. Ce que j'ai fait tout le temps.
Oui.
Parce que jouer avec les limites, c'est vraiment pas mon
genre. Non. Puis les boss, honnêtement, ils surveillaient tout le temps aussi.
Ouais, les boss. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des boss qui étaient très attentifs à ça parce qu'ils voulaient pas se faire vérifier puis que les employés soient dans le trouble. Mais dans mon cas, moi, je déclarais 100 % des pourboires.
Mm-hmm.
Salutations. Ah, ils sont sur leur chiffre de break, là,
mais l'avantage, c'est qu'il te reste plus rien.
Exact. Donc, aucune preuve de ça. J'ai tout dépensé.
C'est beaucoup trop d'argent. Hey, on parlait tantôt des jeunes à maison, là.
Gardez mon linge. J'ai jamais rien gardé.
Non, t'as raison que t'as pas investi dans Coco Chanel.
Mais, tu sais, je comprends la frustration des gens. Exemple, au resto, là, quand j'ouvrais une bouteille à 100 $, Pascal, dans ma tête, ouvrir la bouteille,
ka-ching!
Ça me donnait 15 $.
Mais ça, je trouve ça tough. Moi, la partie que je trouve le plus difficile en restauration, puis je sais que c'est là qu'ils font leur cote, fait que c'est correct, là. Mais je suis allée la semaine passée, puis en passant, je vais te compter de quoi, là, merci à cette personne-là, c'est un auditeur, je suis encore mal à l'aise de tout ça, mais je m'en vais prendre l'apéro avec deux de mes amis, fait qu'on se dit, on va se prendre une bonne bouteille, tant qu'à être trois à être dessus, là, la bouteille, on a calculé qu'au ratio, ça coûtait la même chose si on prenait ce qu'on voulait, donc une bonne bouteille. On avait deux verres et demi chaque, avec des petits plats à partager. Mais cet auditeur-là a pris la bouteille sur sa facture. Là. Merci en passant, j'ai jamais pu le remercier. Il est parti, il m'a pas parlé, le micro me permet de dire ça, mais faites pas ça, OK? Si vous me voyez à quelque part, genre, c'est vraiment gentil. Faites juste dire que vous aimez l'émission Marceau le midi, puis je vais vraiment être contente de ce commentaire-là.
Mais c'est bien des gars puis des filles qui font des cadeaux sans vouloir quelque chose en retour.
Il m'a pas parlé, il m'a rien dit, il a juste quitté. Là.
Ouais,
il a gâté mes chums de filles et moi, mais j'étais mal à l'aise.
Mais
là.
Ça, c'est les auditeurs de Boulevard.
Mais c'est vraiment smart. Mais
avant,
c'est trop
je travaillais
smart.
Si les gars payaient de...
Ils allaient parler.
payaient de la bière ou de l'alcool aux filles, c'était pour les fourrés.
Mais ça s'est pas passé. Il n'y avait pas cette intention-là. Mais ça pour dire que.
Il reste encore du bon monde.
Il y a toujours bien une bouteille qui a été ouverte à un certain prix. Au-delà de 60 $, j'en conviens, on a pris une bonne. Déjà, c'est cher sur le papier parce que ça vaut pas ça. Puis la serveuse que j'adore nous a servi nos coupes, mais on a aussi servi nos coupes parce qu'il y avait un seau à glace. Faut tisper là-dessus.
Ouais. Oh oui.
Tu peux bien dire en tant que serveur catching, là.
Ouais, moi, c'était ça. Si la bouteille valait 100 $, ben je m'attendais à avoir un 15 $ de pourboire. Parce que c'était comme ça dans le temps. Puis là, je comprends qu'il y a tellement eu de magouilles dans les histoires de pourboire. Je te parlais de l'histoire de mon barbier, moi. Tu sais, mon barbier, là, je sais pas, ces gars-là, ils sont pas à prendre à la légère. Là, ils pourraient être astronautes, là, tellement qu'ils sont intelligents, là. Sur le clavier... C'était écrit, au moment où tu devais mettre le pourboire, là, c'était écrit 5 % 18 %
bon gap.
Puis 25 % Fait qu'il allait chercher 3 % de plus. Puis le pourboire était calculé avec les taxes. Là.
Il l'avait vu, la façon de faire de l'argent, mais après, ton, tu sais, ton client, toi, quand tu vois
ça... Moi, il travaille avec une lame, là, fait que je donnerais pas 5% parce que c'est sûr qu'il va m'égorger.
La prochaine fois que tu viens.
La prochaine fois. Mais je donnais quand même le 18% en sachant qu'il me fourrait.
Ça n'avait pas de sens. Puis tu sais, vos coupes pour hommes, c'est cher, mais en même temps, il y a une certaine technique, mais vous passez pas 4, 5, 6, 7, 8 heures comme nous, sa chaise, là.
Puis il charge pas, tu sais, il gagne pas le salaire à pourboire comme les serveurs et les serveuses du Québec.
Ils ont leur salaire minimum plus le pourboire.
Ben, eux autres, tu sais, c'est des travailleurs autonomes. Mm. Puis ils ont juste à louer la chaise. Fait que plus ils travaillent vite, plus ils font de l'argent. Puis en plus, ils avaient trouvé une technique que sur le clavier, c'était 5%, 18%, puis 25%.
Mais viens-tu insulter au point où... pas tu flippes le comptoir puis tu commences à faire une coche devant tout le monde, mais viens-tu insulter au point où tu retournes pas là, où tu changes le pourcentage sur ta
machine? Moi, je vois parce qu'il est tout le temps disponible. Là. C'est... Moi, il n'y a rien de pire que hey, dans 3 semaines, t'as-tu de la place, je vais y aller. Là, okay.
Mais mettons que c'est pas lui et il n'est pas dispo, est-ce que ça t'empêcherait de retourner à quelque part?
Non, mais je trouve ça malhonnête. Okay. Ouais. C'est une stratégie qui est utilisée pour faire plus d'argent. Je trouve ça malhonnête. Puis les coupes de cheveux pour les gars, ça prend à peu près 15-20 minutes, puis c'est 45$ à peu près. Là.
Ça a beaucoup augmenté avec le temps. On parlait d'inflation sur certains produits. Dans le temps, tu devais avoir 10-15$ une coupe frais.
Mais tu sais, ils sont vraiment nice, les gars, puis ça me dérange pas d'y aller. Puis tu sais, je me dis, bon, c'est comme un événement. Là. Les gars sont cool, on jase, on s'amuse, on rit, on placote et tout ça. Fait que je paye pas juste pour la coupe de cheveux, je me dis que je paye pour tout le reste.
Ouais. Le pourboire, quelqu'un qui dit on t'avait dans se faire demander par la police de se faire donner du pourboire.
Ouais, c'est
sur
ça.
Soit une contravention.
Fait, sachez que un bon service, c'est 15%. Dans le temps, un bon service, c'était 10% et un excellent service, c'était 15%. Mm-hmm. Là, les serveurs considèrent qu'un bon service, c'est 15%.
Est-ce que les serveurs sont conscients que ça n'avait pas vraiment de sens de payer du pourboire sur une taxe?
Non.
Sont-tu divisés? Ben 88-971-1021, quand vous travaillez en restauration, est-ce que vous vous dites, ça nous fait suer parce qu'on perd 10 000 par année pour certains, mais on comprend parce que ça faisait pas de sens que vous payiez du pourboire sur les taxes.
Mais non, tu faisais cette job-là parce que c'était le fun et c'était payant.
Ouais.
Là,
oui, moi,
quand j'ai arrêté de faire du service, là, il a fallu que je me parle dans ma tête. Là, parce que j'avais un deuil de la restauration à faire.
J'ai goût d'y retourner des fois, moi.
T'sais, j'avais un estifi de deuil de la restauration parce que c'était tout le temps les mêmes gens que je servais.
Ouais.
Puis je travaillais tout le temps avec ma gang. C'était mes chums de gars.
C'est des bons potins pour la radio aussi. Je sais pas si t'as fait les deux en même temps.
Mes chums de... Non, j'ai pas fait les... Non. Ah, ben oui, au début, 2011, j'ai fait les deux, là. Mais je travaillais juste la fin de semaine en 2011. Mais par la suite, j'ai dû quitter parce que là, mon horaire était rendu complètement débile. Ouais. Mais c'est ça, j'ai dû faire le deuil de la restauration. Parce que quand tu travailles dans un bar... C'est comme ta place, c'est comme...
Ton monde, il y a des clients qui viennent te voir, ils veulent ton service.
Tes clients, tes amis, si t'es célibataire, c'est encore mieux. Tout était parfait.
La restauration, c'est comme...
Certains diraient comme le monde du droit. Il y avait aussi la mère de mes enfants qui me mettait de la pression.
T'étais-tu un petit cruiseur, toi?
Non, pas tout.
Non?
Non, non. J'avais pas besoin de ça.
OK, on passe à un autre sujet.
Mais ça fait te pogner les fesses.
T'étais sur le menu?
Non, non. C'est, ben, en fait,
nous autres, c'est ça. On se faisait demander par les vieux cochons, ouais, t'es-tu sur le menu?
Il y avait du monde qui revenait du village vacances Valcartier. Ils sont venus manger au resto où je travaillais. Ils ont passé la soirée là. Ils étaient super cool pendant toute la soirée. Puis à un moment donné, à la fin de la soirée, j'étais en train de faire le ménage des tables. Puis je me suis fait taper sur le cul, puis je me suis reviré. C'était les 3 gars, là.
T'as pas tes amis que
non,
je connais.
Ils me prenaient pour une jument. Là.
Franchement.
Clouch!
La majorité des commentaires pour ce sujet-là, Yannick, c'est je prends la peine de changer les options pour mettre mon pourboire quand je vois, mettons, des 18, 20, 25 seulement comme option.
OK, Dou. Autre chose. Je sais pas si tu as vu l'article du bureau d'enquête. J'aime beaucoup la gang du bureau d'enquête. C'est Éric-Yvan Lemay qui a écrit cet article-là. Modification de porte. Pour le CHUM à Montréal, qui est l'hôpital, combien ça coûte une modification de porte?
T'as-tu le goût d'être modificateur de porte à partir de maintenant?
C'est 8 000 $ pour modifier une porte. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'immobilier, j'ai fait de la rénovation pendant la pandémie. Là. J'avais besoin de me libérer l'esprit. Fait que j'ai fait affaire avec un gestionnaire immobilier. Puis j'ai dit, donne-moi des contrats. Puis je vais aller refaire tes appartements.
Va dépasser du gaz de même.
Puis je vais aller m'amuser. Puis là, je travaillais physique le jour. Puis le soir, je pouvais aller travailler, la tête remplie de souvenirs. Ça coûte pas 8 000 $ T'sais, puis 8 200 $ pour modifier une porte dans un hôpital. Pour des bras de soutien dans les toilettes. Est-ce que tu sais c'est quoi un bras de soutien dans les toilettes?
La petite barre de métal.
La petite barre de métal que tu touches jamais parce que t'as peur de pogner le sida.
En diagonale, là, que tu dis, elle est sûrement pas lavée.
Exact. Eh bien, 7 700 $.
Hey! Hey!
Pour la faire installer. Elle est payée, là, la barre.
Ça veut dire qu'il y a eu des envois pour le travail.
Ouais.
Il y a eu des retours d'entreprises qui ont bidé sur ce travail-là. Et c'était le moins cher qu'on avait, là, le 7 000 $
ouais.
pour faire le travail.
Exact.
Puis... Mais là, tu faisais-tu 75 hôpitaux? Tu faisais-tu le tour des hôpitaux de la province, Yannick?
Non, pas moi. Mm. Mais je sais comment ça fonctionne. Ça te prend de l'ancrage. Fait que là, c'est au 16. Là, là t'as des BIM là, qui sont là. C'est au 16. Puis là, tu fais tes ancrages-là. Puis après ça, tu rentres ton bras de soutien. 7 700 $, Pascal, pour un bras de soutien.
Combien de bras de soutien pour 7 700 $?
Dans une toilette. Ben allez, hey. Allez chez Canadian Tire, là, tu vas en avoir des bras de soutien à 75 $. 75-80 $.
Il faut que tu en poses, par exemple, pour que ça te monte la facture avec le travail puis le jus de bras qui est calculé sûrement sur ta facture aussi. Monter à 7 700. Moi, je veux pas... Il manque de l'information pour que mon cerveau ait pas dans le doute complet qu'on est de retour dans les anciennes années de la construction.
En fait, ça, là...
Où on se parlait, puis qu'on décidait ensemble, une certaine gang, que ça coûtait tant.
Mais ça, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est que les gars ont tellement de jobs qu'ils reçoivent des soumissions...
Avec de l'urgence.
En disant, « Hey, nous autres, on a besoin de bras de soutien. » Ils mettent un chiffre qui n'a pas de crise de bon sens, mais ils sont les seuls soumissionnaires, puis ils remportent l'appel d'offres. Fait que là, toi... Tu vas porter un bras de soutien là, dans une toilette pour handicapés. C'est 7 700 $, ça a été accepté, tu le charges. Merci, bonsoir, tu repars avec ton bonheur.
Mais tout ce qui est conditions pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, la qualité de travail, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au complet, par contre, ça, on a de la misère avec le budget.
Au CHUM, réaménager une salle de prière. Donc, ce que je comprends, c'est que la salle de prière était déjà là. 45 000 $.
C'est plus qu'une cuisine et une salle de bain mise ensemble en rénovation. Là.
C'est parce que le CHUM est flambant neuf. Ouais. Le CHUM est flambant neuf. Puis là, pour réaménager une salle de prière, est-ce qu'on a encore besoin de ça en 2025 avec toute la chicane de religion et tout ça? Je suis pas sûr. Mais en même temps, regarde, je suis qui pour juger? Ça a coûté 45 000 $ pour réaménager une salle de prière qui avait déjà été aménagée puis qui était neuve.
Puis ça doit être des gens qui ont constaté à l'intérieur même de l'hôpital que ça faisait pas de sens tout ce qui était en train de se passer puis les factures qu'on recevait, qu'on avait à payer parce que ça vient certainement d'informations privilégiées pour que le bureau d'enquête Journal de Montréal/Québec fasse une demande d'information, une demande d'accès à l'information qui prend normalement au moins 30 jours pour l'avoir, cette information-là, parce que ça devait être orienté. Yannick, quand tu le fais, il faut que tu sois le plus précis possible. Si tu manques de détails, tu n'auras pas ta réponse. Donc, c'est des informateurs de l'interne et merci à ces gens-là aussi, dans ce type de dossier-là, de parler, même si vous avez un devoir de discrétion sur votre métier. Parce que ça, il faut que ça sorte. Il faut qu'on soit capable de le mettre de l'avant. Je suis même pas sûr que ça sera au ministre, Yannick, si ça sort pas dans le journal.
Pour ce qui est de la somme de 45 557 $ dépensée pour réaménager la salle de recueillement ou salle de prière, le CHUM n'a pas voulu donner de détails sur la nature des travaux. L'argent pour ces travaux a toutefois été recueilli par le service des bénévoles qui gère le service des soins spirituels. Il provient de tournées de café et de jus et de dons des usagers pour et de la vente d'objets promotionnels
du
CHUM.
Oui, mais tu sais, faut-tu qu'ils en vendent, là? Quand même. Ouais. En tout cas, au moins, c'est transparent, là. On a un peu d'informations là-dessus, sauf que c'est pas ton argent, c'est pas l'argent des contribuables, mais il aurait pu le mettre ailleurs, là.
Exactement.
Même pour eux, là.
Restais-tu d'autres choses à jaser avec toi? Ah! Avec les auditeurs, ça serait le fun de jaser de ça. Moi, je suis un gars qui va 2 à 3 fois par année au casino de Montréal.
Je sais que t'aimes ça. Tu manges là aussi,
hein? Parle-moi pas du casino de Charlevoix. C'est bien aménagé, le casino de Charlevoix. Il est beau, il est le fun. Mais ça n'a rien à voir avec les casinos qu'on voit un peu partout dans le monde. Si vous voulez aller à Charlevoix pour le casino, savez-vous quoi? Vous ne serez pas déçus. Mais moi, j'aime bien le Casino de Montréal, puis pourtant, je ne suis pas un joueur.
Tu manges là, toi,
je mange
trop,
là,
tu manges bien.
J'aime
aussi.
Ça passer la soirée là. Il y a de la musique, il y a un petit bar en bas, tu prends des petits cocktails. Moi, j'avais une blonde qui aimait bien ça, jouer aux machines, mettre un 20$ une fois de temps en temps. C'est pas vrai, elle a mis 100$ la dernière fois. Moi, je mets jamais plus que 20$. Là. J'ai aucun intérêt avec ces machines-là. Mais il y a quelque chose de le fun, l'ambiance dans un casino. Je vais où les tables de jeu, tu sais, les gros joueurs, là. Il y a quelqu'un, la dernière fois, j'y avais été, je t'avais raconté ça. Il a perdu en quelques dizaines de minutes, là, il avait perdu 1 million à côté de moi.
Lui, il avait pas peur de la fin du mois ni de la fin du monde.
Puis sa réaction, c'est un peu comme si sa belle-fille sortait pas des toilettes après 10 minutes, mettons. Il s'en sacrait comme dans l'an 40. Puis moi, je regardais l'argent passer, puis je trouve ça hot. J'aime ça. Puis là, des fois, je me dis, ah, ben, tu vois, la petite roulette avec la bille, là, si j'avais à gager 20$, je le mettrais où? Puis là, je regarde le résultat, puis je dis, ah, ben, tu vois, j'aurais gagné, tant.
Mais t'en mets pas.
Pourquoi on n'a pas ça à Québec? On a la réponse depuis des années et des années. André Arthur le mentionnait régulièrement. Jeff, par la suite, a repris le bal. C'est le casino de Charlevoix qui nuit aux gens de Québec à avoir son propre casino. Nous autres, on a des salons de jeux. On l'a déplacé 2-3 fois. Avant, il était juste à côté du centre Vidéotron. Après ça, on l'a mis au Place Fleur de Lys.
Ah, oui.
Puis après ça, on s'est dit, ouais, quartier défavorisé, on n'est pas sûr. Fait qu'on va envoyer ça à Beauport.
Ouais.
Là, il est à Beauport actuellement. Moi, j'y ai pas été.
Sur Clémenceau.
Ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait même l'appeler casino, mais ça aurait certainement pas de l'air d'un casino comme on peut voir à Montréal. Mais on pourrait avoir ça à Québec.
Tu penses que ça roulerait assez? Oh,
tu sais, oui. Tu le mets juste sous les croisières pour vider les poches des Américains. Ouais.
Moi, je suis pas sûr que ça roulerait assez, mais j'avoue que l'emplacement, par contre, où les croisières est réfléchi. Là.
Discothèque, salle de spectacle, les bars, les salles de jeu, tous les événements corporatifs que tu peux avoir là, les restaurants que tu peux ajouter. Tu mets ça dans le secteur du Vieux-Port, là, s'il y a de la place. Je suis sûr que ça pourrait être un hit instantané. T'sais, vider les poches des Américains qui arrivent à Québec ou les Européens qui arrivent à Québec, moi, ça me ferait grandement plaisir. Mais en même temps, c'est de l'argent nouvelle qui arrive chez nous.
Mais es-tu assez populaire des générations à suivre? On dirait que j'entends personne de mon âge, puis je suis peut-être dans une chambre d'écho, mais qui tripe à se dire hey, « je m'en vais à Charlevoix, je m'en vais à Montréal, je m'en vais... » Le salon de jeu, à part à Las Vegas, pour dire que tu es allé tourner une coupe de roulette, est-ce que ça, c'est générationnel?
Je sais pas. Moi, à chaque fois que... C'est sûr que j'y vais les gros soirs, mettons vendredi soir, samedi soir. Là. À chaque fois que je vais là, c'est plein. Les restaurants sont pleins. Juste au Casino de Montréal, tu as 2 restaurants. Là. T'en as un qui est plus type buffet, mais buffet de luxe. Là. Puis t'en as un autre qui est plus un restaurant là, haut de gamme et tout ça. Moi, j'ai fait les deux. J'ai adoré les deux, mais je préfère le buffet. Parce que là, il y a du stock en masse. Puis,
t'en veux pour ton argent.
J'en veux pour mon argent.
T'inquiète au casino. Tu sais que tu vas te faire flamber l'autre bord.
Quand je sors de là, j'ai l'impression de les avoir volés. mais on mériterait ça à Québec.
Moi, j'aimerais ça savoir au 88-971-101 puis sur Twitch, qui irait? J'ai vraiment l'impression que c'est générationnel. Tu sais, toi, tu tripes encore.
Mettons Leclerc Communication, partie d'employés, casino dans une salle corporative.
Ouais.
Puis on passe notre soirée-là, puis après ça, on s'en va au casino.
Ça, c'est par le fun. Nos amis de l'atelier, là, l'année passée, leur fête annuelle, c'était type casino, super tripant. Ça a été une super belle soirée, tout le monde a aimé ça. Fait que si on avait un casino ici, ça aurait été vraiment trippant.
Tu sais, je mets un chef, là, 4 diamants, là, Pascal.
Ah,
tu vas y aller,
toi? Pas besoin de ça, mais si tu me l'as.
Tu vas y aller, tu mets un bar à cocktail avec des cocktails hallucinants que tu peux pas retrouver nulle part à Québec. Tu
Martine
vas y aller.
Coriandre.
Tu vas aller faire un tour. Il y a une ambiance au casino que j'adore. Il y a quelque chose que je déteste quand je vais à Vegas, là, au casino. C'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Tu es à l'intérieur, c'est que de l'argent qui est dépensé à côté, puis tu sors du casino, il y a des gens qui sont couchés à terre.
Oui. Ah ouais.
Ça me tue.
Mais mettons, au terminal des croisières, on pourrait le vivre aussi, là.
J'ai parlé avec le nouveau chef de Wendake, tu sais. Je sais pas si tu étais avec moi à ce moment-là, mais il est super gentil, le monsieur. Puis j'ai reposé la question à savoir, est-ce qu'un jour, tu sais, on pourrait avoir un casino qui est géré par les Premières Nations, puis eux autres, ils veulent pas s'embarquer là-dedans?
Ouais, c'est peut-être parce que c'est sûr qu'il y a le passé dans tout ça, là. Alcool, jeux,
ce qu'il
m'a
dit,
tout le temps autour des dépendances.
Exactement, ça crée des dépendances, puis ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Mais nous autres, là, tu mets ça juste à côté du centre Vidéotron, Colisée Pepsi. pourrais faire un casino, là.
Ben, on va le détruire, puis on va remonter quelque chose, par exemple, au nombre de rats.
T'as du stationnement en masse. Tu peux faire un stationnement souterrain. Oh, je suis pas sûr souterrain à cet endroit-là, si tu peux creuser bien loin. Mais tu peux faire un stationnement là, puis tu vas revamper le quartier. D'Estimoville, tu peux faire le casino là.
C'est la bonne place si on est déjà parti auparavant.
Moi, l'endroit idéal, ce serait au port de Québec. Là, quand les touristes débarquent, ils puissent aller là.
Oui, parce que c'est un peu loin pour eux, Beauport. Là. Ils vont pas prendre l'autobus pour aller au salon de jeu. Là. Beaucoup de commentaires par rapport à tous les derniers sujets, Yannick. Mais toi, est-ce que tu vas te faire un sticker? Je veux mon casino. T'es-tu rendu là?
Non, pas à ce point-là.
Mais dans ta gang d'amis, puis ça, ils en parlent-tu?
Non.
Tu aimerais ça?
Non, on parle pas de ça. J'ai pas de joueurs dans ma gang. Tu sais, c'est juste que moi, nous autres, on fait une sortie comme ça, puis on s'amuse, puis on s'en va à Montréal. Puis la dernière fois, on avait amené une des amies à ma blonde, puis on avait passé une super de belle soirée. Puis après ça, je redescendais le soir. Elle m'avait traité de cheap en disant qu'on aurait pu dormir à Montréal.
Mais tu disais que tu avais passé de l'argent complet dans la petite machine.
Moi, ça m'a coûté 20$. J'ai perdu 20$ dans la machine. Elle, ça a perdu 100$. Fait que je voulais pas qu'on se fasse les civils.
Sauf que les endroits qui ont des petites machines, là, dans des, mettons, des salons de quai, puis.
Elle joue pas, là.
Non, je sais, c'est pas le même genre de clientèle. Cette clientèle-là, récemment, là, je suis allée m'accoter pour voir, puis j'asais avec une dame qui était là depuis genre 9h le matin, était rendue 15h.
Mm-hmm. Il y en a qui passent leur retraite là-dedans.
Puis les gens en veulent, des petites machines comme ça, là, dans leurs établissements pour certains, parce que c'est très payant.
Toi, t'as pas connu cette époque-là, mais dans les premières années du casino de Charlevoix, c'était pas aussi technologique que ça l'est là. Ben, y a des gens qui se mettaient des couches pour pouvoir passer la journée-là.
Mais ça, c'est triste, là. Ça, je veux dire, Yannick, c'est une dépendance, là, qui n'est pas traitée, qui est là, qui est intense.
Maintenant, ils peuvent aller aux toilettes tout en conservant leur machine. Midi 36, 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Après la pause, on reçoit Nick Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On a plein de sujets à jaser avec Nick. Merci d'être là.
Dans le rock, Yann Marceau et Pascal Cévé.
Quel plaisir de parler avec Nick Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut Nick.
Salut, ça va bien?
Ah oui, tu nous as manqué. Ça fait combien de jours qu'on ne s'est pas parlé?
Ça fait un bon 2 semaines d'après moi, après que je me trompe. Là,
tous les jours.
Passé, vous n'étiez pas là, mais on se reprend enfin.
Toujours, tous les jours, Pascal dit « je m'ennuie de Nick, je m'ennuie de Nick.
Ouais. » C'est long. C'est pour ça qu'on est mardi puis on te prend quand même si habituellement c'est lundi.
Ah, ben c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'hier, c'était une journée fériée en plus. Ben oui, ça tombe demain. Ben écoutez, mon côté, malheureusement, c'est un lundi comme les autres, mais c'est vrai que ça m'a manqué de vous parler, fait que je suis content qu'on se reprenne enfin après, avec tout ce qui s'est passé les dernières semaines. Au moins, j'ai pu parler avec vos collègues la semaine passée, qui étaient super sympathiques, mais c'était pas la même chose que d'habitude, donc
merci d'avoir, toi, été là.
Ben oui, t'étais correct, toi. Hey, Nick, ça te surprend-tu que les Québécois veulent le plus possible sortir de la bourse du carbone du Québec? Les gens sont vraiment tannés. Puis moi, j'ai l'impression que François Legault, dans sa dernière année de mandat, on y arrive bientôt, j'ai vraiment l'impression que François Legault va l'abolir quelques semaines avant les élections.
Ben, on va espérer qu'il fasse avant ça, mais je suis content de voir à quel point le narratif a complètement changé au courant des dernières, des derniers mois surtout, parce qu'on sait qu'on est maintenant les seuls à payer la taxe sur le carbone. De notre côté, on avait même sorti un sondage de Léger il y a quelques mois à peine. En fait, je pense qu'on a sorti ça il y a 2 mois pour démontrer à quel point les Québécois en avaient assez d'être les seuls avec ce mécanisme-là. Puis finalement, bon, on se rend compte encore une fois que on a refait l'exercice avec Léger et c'est pas nous qui l'avons fait là cette fois-ci, c'est vraiment le journal. Et finalement, on découvre que c'est une tendance qui est encore plus vraie. Plus on avance, plus on réalise que les gens veulent s'en débarrasser. Puis c'est pas juste, ne serait-ce qu'à cause du fait qu'on est les seuls à le payer, mais c'est aussi la réalisation que ça a un impact réel sur le prix qu'on paye dans les stations de service et même sur les autres produits qu'on trouve en magasin. Donc la preuve étant que dans l'article qui est sorti aujourd'hui, on dévoilait que à la frontière entre le Québec et l'Ontario, on voit carrément une exode de consommateurs québécois qui vont faire le plein dans les stations de service en Ontario parce que ça coûte beaucoup moins cher par litre d'essence à cause du fait qu'ils ne payent plus de taxes carbone. Mais en plus, ben les gens, ils ont tendance à aussi faire leurs emplettes également, donc faire d'autres achats de l'autre côté de la frontière, si on peut dire ça de même. Donc à la fin, ça a un impact non négligeable, puis on va espérer que François Legault réalise assez rapidement qu'il y a tout à gagner à se débarrasser de la taxe carbone avant d'être rendu en pleine élection. Là. Donc surtout que bon, quand on est trop proche d'une élection, on a plus tendance à prendre avec une pincée de sel des promesses parce qu'on se demande après ça combien de temps ça va prendre avant qu'elle soit mise en place. Donc plus tôt, le mieux c'est. Et il est mieux d'en profiter maintenant avant que le gouvernement fédéral se mette à peut-être envisager d'autres types de taxes carbone parce qu'on sait que Carney, il aime bien ça. Donc, on va souhaiter que ça se fasse rapidement. Mais la réalité, c'est que présentement, puis ça, on va le répéter constamment, il n'y a aucun parti à l'Assemblée nationale présentement qui veulent mettre fin à la taxe sur le carbone de manière officielle. Donc, le réveil aujourd'hui avec le sondage qui est sorti, c'est pas juste pour François Legault, mais pour les 124 autres députés à l'Assemblée nationale.
Ouais, puis tu sais, je regardais sur GasBuddy l'application qui est super intéressante. Quand vous voulez mettre de l'essence, vous savez, dans votre région, c'est quelle est la station-service qui est le moins cher. Il y a une guerre entre Québec et l'Ontario, plus précisément à Gatineau, qui se bat contre Ottawa, l'autre côté. Gatineau, c'est l'endroit où l'essence est le moins cher. Il est à 1,37 $, tandis que de l'autre côté, il est à 1,12 $. Fait que même là, les gens à Gatineau, les essenceries à Gatineau, essayent de le conserver le plus bas possible pour empêcher les gens de traverser la rivière. Mais admettons que je regarde à 8 h ce matin, là, à Québec, on était à 1,50 $, Montréal 1,52 $, Alberta 1,14 $, Manitoba 1,16 $, puis Ontario 1,12 $. Saskatchewan 1,18 $. La différence est énorme, Nick. Là.
C'est énorme, puis malheureusement, on dirait qu'on fait pas grand-chose. Il y a eu le fameux prix plancher sur l'essence qui a été supprimé il y a pas si longtemps là, par le gouvernement Legault, puis la raison de ça, c'est justement de faire en sorte que les stations de service, notamment celles à Gatineau, donc dans les régions qui sont limitrophes avec d'autres provinces où ils n'ont plus de taxes sur le carbone, ben justement qu'elles soient en mesure de réduire leur prix de l'essence pour être plus compétitives. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir en faire pas mal plus, la meilleure chose à faire présentement, ce serait carrément de supprimer la taxe sur le carbone qui, aucun impact environnemental quelconque prouvé. Quand on regarde la réduction des émissions au Québec depuis les années 90, on a discuté à vraiment indiquer c'est quoi le pourcentage qu'on peut attirer là à la bourse du carbone. Donc c'est quoi l'impact de la bourse du carbone sur la réduction des émissions, c'est quasiment nul. Et les émissions étaient déjà en train de se réduire avant même qu'on la mette en place. Donc ça c'est une chose à souligner. La deuxième chose, c'est que c'est essentiellement pour gaver en fait un fond vert ou un fond d'électrification de la lutte au changement climatique. Ça, c'est pas mal ça, le nouveau nom. Et tout ça a été fait pour essentiellement distribuer des subventions avec l'argent des contribuables pour des entreprises qui essaient de devenir éco-énergétiques. Puis ce fond-là, ben essentiellement, c'est ce qu'on appelle un slush fund en anglais. Donc, c'est un fourre-tout. C'est pas vraiment un fond qui a un impact environnemental réel, mais plutôt un fond qui permet de distribuer des subventions dans toutes les directions possibles. Et les contribuables ont été pas mal les dindons de l'affaire jusqu'à maintenant. Donc, ouais. On va espérer que François Legault mette fin à la bourse du carbone, puis faire en sorte qu'on arrête d'être pénalisé, parce que ben, pour une famille, juste une famille avec un seul véhicule, c'est présentement, c'est pas loin de 400 $ par année, juste en taxe sur le carbone qu'on paye à concurrence de 10 cents par litre d'essence. Donc, on va espérer que la réalisation arrive assez rapidement. Sinon, ben, il y a un prix politique, éventuellement, à ne pas écouter la population et à ne pas donner aux contribuables ce qu'ils veulent.
Oh, des fois, je me le demande si les gens vont s'en souvenir. On va parler avec Éric Duhaime, justement, de ce sujet-là tantôt, puisque dans les dernières minutes, il a demandé l'abolition immédiate de la taxe carbone à François Legault. On revient à nos moutons au fédéral. Mark Carney qui a mis fin aux tarifs sans nécessairement en faire part aux médias. C'est assez hallucinant, ça, comme décision. Qu'est-ce qui a poussé Mark Carney à ne pas mentionner qui enlevait les tarifs?
Dans le plus gros impact économique puis de sa campagne électorale, là.
Ben oui, parce que faut le dire, en plus, il espérait aller chercher pas loin de 20 milliards de dollars en revenus, ne serait-ce que cette année avec les fameux tarifs, là, plutôt les contre-tarifs. Puis donc, c'est quand même assez surprenant que pour l'instant, là, on réalise que pour les 6 prochains mois, ces tarifs-là sont pas mal suspendus. En fait, donc les tarifs sont quand même en vigueur, mais ils sont suspendus. Donc, il va falloir un peu plus de clarté de la part du gouvernement à savoir ce qui va arriver par la suite. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on a eu une campagne électorale là, entièrement axée sur le « on va se battre contre les Américains, on va s'assurer à ce qu'ils payent les tarifs, puis de tout faire pour essayer de démontrer que c'est, dans le fond, Carney qui allait remporter le fameux bras de fer. » Finalement, on réalise dès le 7 mai dans les gazettes officielles du gouvernement du Canada que la plupart des tarifs sont suspendus. Et quand on regarde, en fait, un document qui a été publié la semaine dernière dans les pages du Bloomberg Magazine, là, c'est la Oxford Economics Institute qui ont publié ce rapport-là, qui démontre effectivement que la quasi-totalité des tarifs ne s'applique plus présentement. Donc, tous les contre-tarifs qu'on a mis en place pour pas loin de 60 milliards de dollars de produits canadiens, de produits américains consommés au Canada, ben finalement, ça sera plus en place. Donc, déjà, il y a quand même une question d'incohérence entre le fait que, d'une part, on n'a pas dit qu'on veut faire le bras de fer, on va mettre fin à nos relations avec les Américains, on tourne la page sur cette vieille histoire-là, puis on va changer l'économie canadienne en contrepartie, puis finalement, une rencontre après Donald Trump, ben on met fin aux tarifs en catimini, on l'annonce pas, puis après ça, on l'apprend plus tard, puis là, on a même François-Philippe Champagne qui essaie de nous faire croire que c'est pas vrai. La réalité, c'est que, ben, de un, puis ça, on va le dire franchement, les contre-tarifs, c'était une mauvaise idée en partant. On comprend que beaucoup de personnes trouvaient qu'il fallait pas faire de la plaventrice, mais qu'il fallait se tenir debout. Mais se tenir debout en se tirant une balle dans le pied, c'était pas très productif, et ça, pas mal tout le monde s'entend pour dire que les contre-tarifs, au final, c'était nous qui ça pénalisait. Donc, le fait qu'on mette fin à ça, c'est une bonne nouvelle, mais on va le dire aussi franchement, ça manque de transparence pas à peu près de la part de Carney de faire ça sans l'annoncer. Est-ce que c'est comme si finalement c'est une sorte d'aveu de « ah ben on a reculé, mais on voulait pas le dire trop fort » ou c'est plutôt qu'eux, ils ont réalisé que la stratégie consistait à se pénaliser dans un contexte où est-ce que ben, la dernière des choses qu'on a besoin, c'est plus de taxes, plus de tarifs, ben peut-être qu'ils ont réalisé que c'était une mauvaise stratégie au final et ben ils veulent pas trop l'annoncer trop fort. Donc dans tous les cas, on va espérer qu'il y ait plus de clarté de la part de Mark Carney, surtout que à peine la même semaine, on apprenait que finalement, on va avoir un budget alors qu'il disait le contraire deux jours avant. Donc, on a hâte de voir c'est quoi l'impact budgétaire de l'annulation de ces tarifs-là, parce que on savait déjà que le gouvernement de Carney allait être très dépensier, mais là, il va avoir moins de revenus avec la suspension des tarifs. Donc, on va voir ce qui va arriver, mais on va devoir attendre le fameux budget qui devrait être déposé cet automne pour avoir une déclare de l'impact économique de cette guerre commerciale-là au final.
Nicolas Gagnon, on va parler de taxes, ben, d'immatriculation. Sam Ahmad nous apprenait la semaine dernière que s'il devenait maire de Québec, il allait abolir la taxe additionnelle de 60% sur l'immatriculation. Toi, tu nous dis que l'immatriculation nous coûte plus cher cette année. Est-ce que les médias ont été mis au courant de ça?
Oui, ben on l'a répété à plusieurs reprises. On a quand même fait pas mal de couvertures médias là-dessus, mais depuis le 1er janvier, les taxes sur l'immatriculation des véhicules ont augmenté drastiquement, notamment dans la région de Québec, dans la région de Montréal. Puis on parle quand même d'un bon pourcentage. À Québec, on est passé de 0$ à 30$. Finalement, c'est rendu 90$ par véhicule. Donc, c'est une augmentation de 200% qui est en vigueur depuis le 1er janvier. Et donc, par véhicule. Donc, dites-vous que c'est quand même pas mal plus si vous avez un deuxième véhicule dans le parking à la maison. Puis à Montréal, c'est une augmentation de 154%. Donc, on est passé d'environ 50$ par année à 150$. Pardon, 59 à 150$. Donc, c'est quand même énorme pour une famille, encore une fois, pour deux véhicules. Ça gonfle les factures pas mal. Et il faut aussi considérer que ça, c'est mis en place essentiellement pour couvrir les fameux déficits du transport en commun, tant du RTC que des autres transports dans la région métropolitaine de Montréal. Et au final, c'est les automobilistes qui doivent en assumer le coût. La facture est énorme. Et puis, dans mon cas, vu que j'ai mon renouvellement en juin, là, parce que c'est par lettre et par mois que vous recevez votre renouvellement pour la SAQ, j'ai reçu le mien la semaine passée, écoutez, 392$ pour un seul véhicule. Puis je dis, j'ai un dossier assez, un bon dossier avec la SAQ, c'est pas comme si j'avais un problème à quelconque niveau ou des retards ou autre, mais quand je regarde la facture elle-même sur le 392$, près de la moitié, 180$, c'est les frais les transports en commun. Donc, la moitié de ma facture en tant qu'automobiliste, c'est pour payer le transport en commun de la région de Montréal.
Ouais. Et il n'y a rien qui dit que ces sociétés-là de transport ne feront pas des déficits par-dessus des déficits année après année, puis qu'on devra casquer le montant sur notre immatriculation de notre côté.
Ben, malheureusement, c'est effectivement, c'est comme à peu près la même chose pour tout le reste du modèle québécois présentement. Le problème, c'est pas les revenus, c'est la gestion, c'est le modèle, c'est les dépenses. Et on voit très bien avec les agences de transport en commun puis les différentes organisations comme telles. Là, effectivement, je pense que Stan Hamel s'est engagé à renverser cette charge-là. On espérait qu'il y ait d'autres personnalités, d'autres maires et mairesses ou d'autres candidats à la mairie dans d'autres municipalités qui s'y opposent aussi, parce que veux pas, c'est près de la moitié des Québécois qui, cette année, encaissent quand même une grosse augmentation de leur facture de véhicules. Puis il n'y a pas grand monde qui parle pour eux présentement sur la scène politique. Donc, ils ont raison d'avoir un peu l'impression d'être pris en otage alors que tout augmente. Puis en plus, ben, on leur a fait une plus grosse facture pour avoir le droit de se déplacer en véhicule.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On prend plus de temps avec toi la semaine prochaine, mon ami. Aujourd'hui, l'horaire est chargé comme pas possible.
Ouais, c'est bien correct. En plus, c'est une exception qu'on se parle un mardi, fait qu'on va se reprendre lundi prochain sans faute.
Mais sache que Pascal se considère comme gâté de t'avoir parlé cette semaine.
Ah, c'est toujours un plaisir.
Salut, mon ami!
Le rendre mal à l'aise.
Bye. L'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Voulant savoir plus sur la Fédération canadienne, c'est contribuable avec un S.ca. Boulevard 102.1. Ah, la grande visite en studio, chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui était en conférence de presse il y a de ça quelques minutes. On l'a pogné sur le fly. Éric Duhaime est toujours sur le fly.
Oui, puis souvent sur le fly ici, là, tu commences
ça
à...
Fly, ça fly,
t'ennuies-tu de la radio, parce que...
Ouais, je m'ennuie-tu de la radio, j'en fais plus que quand j'avais mon micro arrêté.
qu'est-ce que t'as annoncé aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a eu un sondage ce matin, publié dans le Journal de Québec, qui nous apprend que 56% des Québécois sont contre la taxe carbone, ils voudraient l'abolir.
Ouais, c'est pas une surprise, ça.
28% voudraient la maintenir. Ben, c'est pas une surprise. En mesure où le mois passé, 100% des députés à l'Assemblée nationale ont voté pour le maintien, on se rend compte que c'est du 2 pour 1 contre.
Mais ce que la population peut en penser versus ce que les politiciens veulent mettre en place, c'est-tu vraiment important pour les politiciens?
Le fait qu'on n'ait même pas un député sur 125 qui vient d'exprimer l'opinion de 56% du monde au Québec, là, moi, je trouve qu'il y a un problème démocratique sérieux.
Je regarde sur Québec 125, là, dans la grande région de Québec, il y a des gens qui vont voter pour le PQ alors que la majorité des gens de Québec veulent un troisième lien puis le PQ veut rien savoir du troisième lien. Le monde est mêlé.
Même affaire sur le tramway, même affaire sur la taxe carbone. Ils sont contre le PQ sur tous les enjeux, mais ils votent pour le PQ.
Pourquoi? Parce que les autres partis les ont déçus, libéraux se sont pas reconstruits.
C'est beaucoup des anciens péquistes qui sont allés à la CAQ. Et là, quand j'utilise toujours le même exemple, mais quand tu laisses ta femme, ben souvent, tu retournes chez ton ex une couple de fois.
Oh, t'sais. Ben!
Ça se peut-tu que ça soit ça? T'as déjà fait ça?
Non, je sais pas. La semaine passée, j'ai appris que le PQ s'était rendu une coalition.
Oui, ben oui.
Oui, oui. Puis quand j'ai reçu Paradis...
Il y a un castriste de centre-droite.
Quand j'ai reçu...
Un castriste...
Quand j'ai reçu Paradis en studio, que j'aime bien, avec qui j'aime bien jaser d'ailleurs, il disait « Ben oui, on a toujours dit ça. » Non, vous avez jamais dit que vous étiez une coalition. Mais ça a l'air qu'à l'interne, ils jasent que le PQ, c'est une coalition de centre-droit.
Mais il avait mis ça de côté depuis que la CAQ n'avait plus de la force. Mais là, est-ce qu'ils veulent revenir en force
le
avec
ça? Le vent d'Arthabasca, on va appeler ça de même. Là.
Oui, le vent d'Arthabasca. Donc, ce matin... T'as annoncé que tu veux absolument que François Legault mette fin à la taxe carbone. À quoi elle servait, cette dite taxe carbone-là?
Elle va dans le fonds vert à 100%. Ça fait les Québécois ont payé 10 milliards dans le fonds vert. Cette année, on va payer 1,5 milliard de plus en taxe carbone pour des projets supposément environnementaux. D'ailleurs, ce matin, dans le journal, il y a aussi une chronique de Pierre-Olivier Zappa qui explique comment le fonds vert est mal administré, comment il manque de transparence, comment on ne peut pas mesurer les résultats, comment des multinationales en profitent pour se donner une image verte.
Ouais.
Il parle de Smirnoff, puis il parle de toutes sortes d'entreprises qui n'ont pas besoin de votre argent comme automobilistes, là, mais qui reçoivent des millions pour bien paraître. C'est même rendu que la Banque mondiale puis l'ONU reçoivent de l'argent, sans parler de toutes sortes de pays d'Afrique. C'est devenu une farce. Donc, ça sert à ça. Et,
la fameuse clôture des Agorées au Gabon. Là.
Ça aussi. Puis, mais c'est ridicule, je veux dire. On paye. On est les seuls au Canada à payer. Là, même aux États-Unis, il y avait la Californie qui est dans la bourse carbone avec nous. Oui. Même en Californie, ça commence à brasser parce que le Sénat américain veut empêcher les États d'aller là-dedans. Fait que ça se peut que dans les prochains jours, prochaines semaines, on soit les dindons de la farce, les derniers du continent. Là.
Là, actuellement, là, à 8 heures ce matin, en Ontario, l'essence était à 1,12 $ du litre.
Mm-hmm.
À Québec, on est moins cher qu'à Montréal. C'est rare. Là. Ce matin, c'était à 1,53 à Montréal.
C'est
Québec,
1,62, 1,63.
Québec, c'est 1,50.
1,50, okay.
Donc, on est à 1,50 à Québec. C'est combien d'argent que le gouvernement de François Legault nous prend par litre d'essence?
Bien, ça, c'est important de le comprendre. D'abord, vous avez une taxe d'assises de 10 cents le litre. Okay? Ouais. Ça, c'est la taxe fédérale d'assises. Tu as une taxe provinciale au Québec qui est 19,2 sous. En Ontario, elle est 9 sous. OK? Fait que c'est 10,2 sous, juste là qu'on se fait avoir. Là. Après ça, tu as une taxe sur le transport en commun. Ça varie de dépendamment dans quelle région tu habites, mais c'est une taxe sur le transport en commun. Après ça, tu as la taxe carbone. On calcule, c'est entre 10 et 13 sous parce qu'on ne le sait même pas, parce que ce n'est pas transparent du tout la façon dont c'est calculé. Après ça, tu as la TPS qui s'ajoute sur ces taxes-là de 5 %. Et après ça, tu as la TVQ de 9,975 % par-dessus tout. Là. Ils taxent les taxes puis ils taxent le montant de l'essence.
À Montréal, il y a un 3 cents supplémentaire.
Pour le transport en commun.
Ouais.
Ça, c'est pour. Fait que tu calcules ça puis tu te rends compte qu'au bout, au bout de la ligne, tu payes à peu près autant en taxes qu'en essence. Fait que quand tu vas à pompe, là, calcule que la moitié de l'argent que tu mets là, tu l'envoies au gouvernement.
Parce que j'en parlais tantôt avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Juste l'autre bord du pont, là, en Ontario. Là,
Hawkesbury, Ottawa.
Ottawa. Il est à 1,12 $. Puis ça a mis une pression quand même sur les essenceries à Gatineau, parce que l'essencerie à Gatineau est à 1,38 $.
Oui. Mais ça, on n'est pas surpris.
Puis nous autres, on est à 1,50 $.
Non, mais attendez, là, sur les taxes, il y a quand tu es à une certaine distance de la frontière, le gouvernement du Québec taxe moins si de l'autre côté, l'écart est trop important.
Ça a toujours existé. Voilà.
Oui, ça a toujours existé. C'est dans la loi, ça. Donc, ça fait que le Gatineau, tu payes toujours moins cher. Ou en tout cas, pas toujours, mais généralement beaucoup moins cher que partout ailleurs au Québec. Ou ceux qui sont sur le bord du Nouveau-Brunswick aussi. Là.
Ouais.
C'est rendu que c'est pas. Puis dans le bout de la chute.
À Saint-Georges-de-Beauce, ils sont proches des lignes. Ils payent-tu moins cher l'essence?
Les autres sont pas chanceux.
Dans le fond,
ils
ne sont pas intimidés comme les
parce
autres.
Parce qu'il n'y a pas de station d'essence, l'autre bord, c'est le bois.
Comment est-ce qu'on explique les endroits où il y a certaines stations où justement c'est moins cher? Il y en a une sur la 20, il y en a une au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est sûr qu'il
n'y
a pas de la concurrence. Là, puis c'est sûr que le Costco, c'est parce qu'eux, ils ont décidé un modèle d'affaires qui est différent. D'abord, il faut que tu sois membre. Donc, ils ont un revenu par le membership. C'est aussi une façon d'attirer le monde dans les magasins. Là. C'est un loss leader. Là,
j'avoue qu'un intimidateur qui veut s'en prendre à Costco, ben, faut qu'il se couche tôt. Là. Parce qu'on a déjà vu ça, des essenceries, des gens qui ont en fait un commerce où ils vendent de l'essence, baisser leur prix, vouloir le faire. L'homme au Saguenay qui était propriétaire puis qui s'est fait harceler, qui s'est fait menacer, il y en a qui ont tenté ça.
C'est ça, mais grosso modo, là... on dit souvent que c'était la faute des puis ça, c'était la ligne de François Legault, d'ailleurs, dans la dernière élection. Nous autres, on proposait de suspendre le 19,2 sous de la taxe provinciale. Mm-hmm. François Legault disait, je peux pas faire ça. Si je fais ça, les pétrolières vont toutes garder l'argent, puis le consommateur se rendra pas compte. Sauf que, regardez, à matin, là, en Ontario, mettons, là, c'est 25 cents, grosso modo, en moyenne. Si tu vas sur Gas Body. C'est 25 cents de moins. Le 25 cents, c'est pas compliqué. Là. C'est 10,2 cents sur la taxe sur le carburant qui est de moins. C'est le 10 à 13 cents de taxes carbone. Puis c'est les taxes les taxes de vente. En Ontario, c'est 8 %. Ici, c'est 9,975 %. Fait que si tu calcules le montant, ça donne exactement le même prix. Si tu enlèves les taxes plus gourmandes du côté du Québec, le prix de l'essence comme tel, il est exactement le même
prix
présentement au Québec qu'en Ontario.
On pense qu'il va s'ajuster avec le temps?
Il dit ça parce qu'il ne veut pas le baisser. Puis au Québec, on est devenu accro des taxes. Le gouvernement est tellement gourmand, puis ils gaspillent tellement qu'ils peuvent plus se priver de revenus.
Je vais te poser une question, Éric Duhaime. Vas-y. Advenant le cas où c'est l'abolition immédiate de la taxe carbone que tu demandes, puis c'est reçu par François Legault, puis il fait ça aujourd'hui grâce à toi, il prend l'argent où pour financer ses patentes par la suite?
D'abord, la taxe carbone, c'est facile, ça ne coûtera pas une scène. Il a juste à arrêter de financer le fonds vert. Donc ça, on a juste à mettre une croix sur le fonds vert.
Oui, mais le fonds vert, il y a des subventions qui sont octroyées et tout ça. Ils veulent continuer de donner des subventions, c'est le gouvernement. Là.
Les subventions qu'ils donnent, c'est beaucoup pour l'électrification des transports, donc pour les voitures électriques. Vous savez que c'était appelé à diminuer, pas même à disparaître. Là, ils ont commencé déjà à réduire les subventions aux voitures électriques. Donc, le fonds vert, puis le fonds vert a un surplus parce qu'ils ont tellement bouffé d'argent qu'ils sont même prêts à les dépenser assez vite. Par rapport à ce qui rentre. Fait que moi, la solution, c'est d'arrêter le fonds vert. Puis il faut que vous sachiez qu'au Canada, il y en avait une taxe carbone jusqu'au 1er avril dernier. Là, puis, mais Mark Carney l'a annulé, le nouveau premier ministre du Canada.
Ils ont donné des chèques à tout le monde, sauf à nous autres.
C'est ça. Eux, au lieu de financer le fonds vert avec l'argent qu'ils ramassaient en taxes, ils prenaient ça puis ils envoyaient des chèques aux familles. Ce qui fait que les familles recevaient des chèques de 400-500 $ pour compenser pour les taxes carbone. Nous autres, on n'a jamais reçu une scène au Québec.
Mais on a payé pour cet argent-là, par exemple.
On paye. C'est ça qui est complètement stupide, là. Il faut vraiment sortir de là, ça presse. Puis je sais pas comment ça se fait que tout d'un coup, là, on se réveille. Nous autres, ça fait des mois. Écoute, je suis venu ici il y a deux mois te parler de ça, Yannick, tu t'en souviens?
Oui.
Bon, puis je veux dire, à l'Assemblée nationale, ils votaient à l'unanimité dans le sens contraire. Mais on sait que le PQ aujourd'hui, il se réveille. Ah là, ils disent, ah oui, il faut réduire les coûts. Là. Le PSPP vient de tweeter ça, là. Mais croyez-le ou non, le même PSPP, en campagne électorale la dernière fois, allé dans son programme environnemental, chercher le pot puisqu'il l'a enlevé sur Internet, il marquait « et je suis », et je cite, que le Parti québécois propose « imposer une surtaxe sur les combustibles fossiles en plus du speed ». Ça, c'est la taxe carbone. Fait qu'il voulait rajouter une autre taxe, lui-là. Ouais. Là. Mais c'est vrai qu'on en payait pas assez.
Mais ils sont tout mêlés. Là, ils voient que les élections s'en viennent. Ils voient que la CAQ n'a pas la cote, puis ils essayent de prendre place. Comment ça va dans Tabasco, là?
Ça va très bien.
T'es-tu sorti des histoires d'Alex Boissonneau, là?
Ben écoute, c'est pas moi qui est allé là-dedans, c'est eux autres qui
t'ont
se sont...
Ils t'ont-tu achalé à matin?
Ben j'ai eu des questions là-dessus, mais écoute, ouais. Moi, je veux dire... Le PQ va vivre avec son choix. Là. Moi, je ne l'aurais pas pris comme candidat. Moi, un gars qui a un dossier comme celui-là, jamais je pourrais prendre ça comme candidat. Puis j'ai souligné le fait qu'il y avait un deux poids, deux mesures. Puis ouais. Tout le monde au Québec, même les gens de gauche, sont capables de le dire quand les micros sont fermés que ouais, c'est vrai que si ça avait été avec la droite, ça n'aurait pas passé.
Écoute, ils ont crucifié un gars qui a fait une blague complètement idiote, Guillaume le Métivierge, ouais. Avec son arbre et tout ça. Ils ont dit que ce gars-là ne méritait pas de travailler puis il fallait couper toutes les entreprises pour lesquelles il travaillait. Mais c'est la même gang qui dit « Non, non, mais là, c'est son passé. C'est dans sa jeunesse. Mais jusqu'à quand que t'es jeune? »
Il était juste leader d'un groupe qui était arrêté avec des explosifs. C'était pas...
Il a demandé à un agent de la GRC s'il était apte à transporter un cocktail Molotov. Là. T'es-tu à l'aise à transporter des cocktails Molotov?
Il a passé 41 jours en prison parce qu'il représentait un danger pour la société, selon le juge.
Ouais.
Donc,
qu'est-ce que ça dit sur le terrain, Éric?
Ben, ça dit le contraire de ce que vous lisez dans les médias, c'est-à-dire que les gens ils sont pas ils pensent pas que c'était sa jeunesse puis qu'on oublie ça, c'est pas important là. Les gens ils veulent être bien représentés, puis je pense qu'ils vont prendre ça en considération là. Donc
sens ça, ben les électeurs?
Les électeurs, ils étaient tous. Surtout les gens d'affaires. Hein. C'est une circonscription où il y a beaucoup de PME. C'est niaiseux, là, mais il n'y a pas juste la condamnation puis aux criminels. Là. Il y a aussi le fait que c'était un groupe anticapitaliste. N'oubliez pas ça. Là. Et tu sais, pour des entrepreneurs de PME, là, c'est pas quelque chose qui les attire. Là,
un groupe anticapitaliste, t'as lui le chef, là, il est rendu de centre-droit. Le PQ est rendu de centre-droit.
C'est n'importe quoi.
Une chatte en perdrait ses petits. Éric Duhaime, de quoi vont être faits tes prochains jours?
Bien là, je m'en retourne dans Tabasco dans les prochaines heures.
Ouais.
Et je vais passer la semaine là-bas. J'ai toutes sortes de rencontres, du porte-à-porte, des visites d'entreprise, des rencontres avec des groupes de citoyens. Donc, c'est de la campagne. Écoute, on va faire la campagne électorale, j'ai l'impression, une bonne partie de l'été, parce que François Legault, malheureusement, n'a pas l'air pressé à partir en campagne
électorale. Bien, il ne veut pas te voir là, c'est pas compliqué.
Puis je pense qu'il y a eu aussi les sondages là, qui sont très mauvais.
Ouais.
Tu sais, perdre à Tabasco pour la CAQ, vous comprenez que c'est peut-être le parti qui a le plus à perdre parce que c'était la meilleure circonscription de la CAQ à plusieurs égards. C'est le comté où il y avait le plus de membres, qui ramassaient le plus d'argent.
Mais c'est là où on entend le moins parler de la CAQ en ce moment, dans une partielle.
Puis là, la CAQ est plus là. Donc, puis ils ont fait quand même 52 % à la dernière élection.
Ils l'ont-ils abandonné, tu penses, Arthabasca?
Bien, s'ils abandonnent Arthabasca, je ne sais pas quel comté au Québec ils abandonnent.
Non,
pas,
mais
là,
tu comprends mon point.
Mais c'est leur meilleur. Je veux dire, s'ils abandonnent Arthabasca, ils vont gagner où, la CAQ? Puis cherchez-en pas 20, là. Cherchez-en un autre comté qui est meilleur qu'Arthabasca pour la CAQ. Puis vous allez voir que la CAQ... C'est pour ça qu'ils attendent. Ils espèrent peut-être que pendant l'été, il va se produire un miracle. Ce qui est plate, c'est qu'ils prennent la population d'Arthabasca en otage. Parce que ces gens-là, ça fait déjà plus de deux mois qu'ils n'ont pas de députés. Et c'est un comté rural. Là. Aller dans le comté d'à côté, là, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Là. Ça ne marche pas. Tu as besoin d'avoir un député sur le terrain présent. Puis ces gens-là, malheureusement, parce que la CAQ est en retard d'un sondage, ils vont passer six mois sans député probablement.
Ouais, je regardais mon plan de la journée tantôt, puis ouais. Pascal t'a mis dans un autre poste que ton poste actuel. Regarde Éric Duhaime.
Ah, au Canada! Au Parti conservateur du Canada.
Ah oui.
Tu veux-tu m'envoyer au fédéral, toi? Là? J'y ai dit, j'allais pas au fédéral.
Va-t'en le plus loin possible.
Ah. Je m'en vais. Merci.
Bonne journée. Bye.
Salut.
Marceau, le midi.
Ah, chum Pat Raymond qui est en studio. On va parler d'argent.
Kachin.
T'en apprends-tu des affaires avec Pat Raymond, Pascal?
Beaucoup. Parfois, je trippe, je sors d'ici, j'ai le goût de 150 minutes avec Pat, j'écoute son podcast et d'autres fois, je fais comme « Hey, je vais prendre un pas de recul avant de faire une crise d'angoisse. »
Ouais. Faites-vous de l'anxiété financière? Je pense que c'est une bonne question qu'on pourrait poser aux auditeurs. 418-971-1021. 418-971-1021. Est-ce que vous êtes capable de vous ramasser de l'argent pour la retraite? Est-ce que vous avez un petit fonds? Est-ce que vous avez de l'immobilier? Pensez-vous que vous allez en avoir assez?
Êtes-vous bien entouré de professionnels? Parce que Pat, c'est un bel ajout dans ma vie. Ta comptable, c'est un excellent ajout dans ma vie aussi.
Ma comptable, c'est la meilleure.
Pour vrai, là, ouais. Alléluia.
D'ailleurs, j'ai oublié de donner des papiers.
Encore?
Faut que je retourne demain en reporter.
Mais tu peux compter sur elle.
Ben moi, je suis un travailleur autonome, fait que je ne suis pas c'est les mêmes dates que toi, Pascal.
Non, c'est vrai.
Ce qui fait en sorte que je...
Mais fallait que tu payes, par exemple, c'est les mêmes dates que moi.
Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire.
Pat va nous aider à ce que tu payes avec le surplus.
Mais tu sais, là, j'ai reçu. T'as reçu des lettres des fois du gouvernement qui te disent comment tu pourras avoir à 65 ans si tu continues de contribuer le petit montant qu'ils t'envoient?
Ça doit être chez mon ex là, que ça va, ces lettres-là.
T'as pas ça? Moi, il me l'envoie. En fin de semaine, je suis tombé là-dessus. Je faisais le tri de mes papiers. Puis là, je regardais comment il allait me donner à 65 ans.
Combien tu vas avoir?
C'est autour de 1700$, 1800$. Ça se peut-tu?
Par mois? Bien, ça, c'est le maximum. Ça, si vous continuez à cotiser au maximum.
Ouais, mettons. C'est ça. Si je prends ma retraite à 65 ans, mais tu comprends que 1700-1800$ par mois rendu au moment où j'aurai 65 ans, ça va être quoi? L'équivalent de 500-600$
par... Mais ça, tu reçois ça à quel moment?
Non, mais ça va être indexé.
C'est-tu là que notre différence d'âge frappe à la porte?
Je sais pas. C'est-tu 45?
Non, mais tu reçois ça quand même. RRQ, là, tu reçois ça régulièrement.
Parce que je me souviens de l'avoir reçu, moi, cette lettre-là, quand j'étais jeune aussi. Oui. Là. Fait que d'après moi, Pascal, là, ouais, c'est ton ex qui reçoit ça, puis il cumule ça, puis il a volé ton identité.
À moins qu'elle cotise pas.
Ben non, c'est ça l'affaire que je me demandais où la lettre.
Ouais. Ben c'est ça, il t'envoie une lettre, puis il te dit si t'arrêtes maintenant, tu vas avoir tant. Si tu prends ta retraite à 60 ans, tu vas avoir tant. Puis si tu continues de donner de l'argent, ben tu vas avoir tant.
Ouais, clairement que j'arrête pas là. Fait que d'après moi, c'est pour ça que
c'est autour de 1700 qui me donnerait à 60 ans.
L'objectif, c'est d'avoir 25% du maximum de gains admissibles, qui est autour de 70 000 aujourd'hui. C'est d'avoir 25% de ça. À 65 ans, au niveau de RRQ.
Puis là, mais c'est 1700, mais il me semble que c'était bleu, fait que c'était Revenu Québec. Là, le fédéral, il va-tu me donner un petit montant aussi?
Oui, fédéral aussi. Et pour revenir sur la RRQ, on tend à vouloir avoisiner autour de 33 %. Autrement dit, vous allez avoir le tiers des revenus admissibles là, maximum. Là, quelqu'un qui fait 70 000, il va avoir le tiers de ça d'RRQ pour sa pension. Puis il va avoir aussi la pension de sécurité de vieillesse qui s'ajoute à 65 ans. Puis si vous n'avez pas cotisé à votre retraite, puis vous avez 50 ans, puis vous voulez avoir un petit 40 000 de plus, mettons, ce qui serait à peu près nécessaire, c'est 1 600 par mois à partir d'aujourd'hui. 1 600 par mois
à 50 de côté. Ans, il faut que tu te mettes 1 600 par mois de côté.
Oui, c'était dans la presse cette fin de semaine.
Qui est capable de se mettre 1 600 par mois de côté, Pat, aujourd'hui?
Mais c'est la question. Là.
Et c'est au-delà de 3 ou 4 000, je vais de mémoire.
Mais là, 1 600 avec tout le reste de payer, on ne parle pas de quelqu'un qui s'endette continuellement sur sa carte pour en mettre de côté. Là.
Mais là, c'est d'ajouter le 40 000 aux pensions d'État, ce qui est un peu un gauge.
Il faut que tu maries un fonctionnaire de l'État.
Quelqu'un qui a juste les pensions à 65 ans aujourd'hui, il manque à peu près 30 à 40 000 en ce moment. Là.
C'est beau, Yannick, que tu mettes sur moi.
Faut que tu dettes des fonctionnaires.
C'est beau de mettre sur moi notre avenir là, par rapport à quelqu'un.
Non, mais c'est bien ce qu'il dit parce que idéalement, idéalement, ça prend un pensionné avec un travailleur autonome, ça fait un bel équilibre.
OK, un genre c'est de ça. Pompier, policier, pas juste un fonctionnaire, ça se peut-tu?
On sait pas trop ce que les fonctionnaires vont faire avec nous autres, mais nous autres, on sait ce qu'on va faire avec eux autres. On va bénéficier de leur pension.
Quand je dis un pensionné, c'est-à-dire qui cotise à un fonds de pension, pas nécessairement à la retraite encore, mais souvent, on voit ça dans un couple, là, un qui est un petit peu plus autonome et sans savoir ce qui l'attend plus tard, puis ça fait son affaire, et l'autre préfère avoir la sécurité puis cotiser dans un fonds de retraite agréé.
Mais
là,
c'est une prison dorée parfois, puis ça a été souvent décrit comme autant. Là.
Oui, tu as raison.
Marco qui nous écrit, il dit « Salut, je suis chanceux, je suis militaire, mais ce temps-ci, incapable d'en mettre de côté. J'ai 3 enfants, peu d'anxiété ces temps-ci. » Audrey, qu'est-ce qu'a dit la belle Audrey? Elle est capable de mettre 954$ par mois.
Très bon, là.
Wow!
Ben, c'est 1000$ par mois, là.
Ben, elle a quel âge? Non, ça dit pas.
Elle va pouvoir répondre.
Martin dit « Salut, pour ma part, je viens d'une famille qui tirait le diable par la queue. Avec les années, j'ai appris à me structurer, à avoir de l'épargne et je ne vis plus d'anxiété financière. »
Oui, ça change beaucoup ton passé là, avec ta famille, d'où tu viens et tout ça. C'est toi, Yann, t'en parles des fois aussi. Là.
Il l'a vécu, lui.
Oui, tu l'as vécu. Là. Ouais.
L'insécurité financière qui
influence. Après ça, il met tout son argent sur le lion électrique, mais il essaie. Là.
quiconque est parti de chez eux très tôt, t'es parti de chez vous très tôt aussi.
Pas le choix des études.
Chez nous, j'avais 15 ans. Là. Ouais. Ma mère avait signé pour que je puisse avoir une chambre à côté du cégep
de Sainte-Foy.
Mais toi, tu payais tout ça en plus.
C'est-tu Limoilou, cégep de Sainte-Foy, c'est parce que...
Il me semble que t'avais dit Limoilou à un moment donné, mais...
T'es à Sainte-Foy.
Je dis n'importe quoi. J'étais à côté du cégep de Limoilou.
Voilà.
Puis ça me coûtait 300$ par mois, cette chambre-là. Puis j'avais 15 ans.
Puis tu le payais toi-même?
Je le payais moi-même avec le salaire chez Ronald McDonald. Hey. Je gagnais entre 5 et 6$ de l'heure.
Je trouve ça tellement cher pour une chambre 300$ à l'époque, là. Ouais. 15 ans!
T'as appris beaucoup, hein?
Oui. C'était,
mais t'as pas...
C'est formateur.
Puis c'est une parenthèse, mais je suis tombée sur une vidéo d'une fille sur les réseaux sociaux récemment qui disait « Hey, qui... je serais qui, moi, si j'étais tombée dans une famille où les parents avaient soit la possibilité ou faisaient le choix de payer mes études jusqu'à l'université et que je n'avais pas eu à partir très, très jeune à cause d'un contexte X et puis commencer à payer mes affaires. » Yann, là, à 15 ans, avoir à payer 300$ juste pour son loyer, t'as la nourriture là-dedans, t'es pas à 100% sur tes études, t'es pas à 100% sur ce que ça va t'amener. Ton argent, tu le dépenses en loyer, en nourriture, en t'habillant. C'est particulier. T'as pas la même chance dans la vie, là.
Mais non, on n'est pas tous égaux, hein.
Il y en a qui s'en sortent de façon extrêmement haute aussi. Là.
En même temps, ça te permet de savoir que tu peux être heureux, mais même en étant pauvre.
Oui.
Là, mais c'était vraiment le strict minimum. J'avais pas d'enfant. Les gens qui étaient avec moi ne pouvaient pas souffrir. Quand t'es pauvre puis tes parents, là, tes enfants vont souffrir de ça. C'est, tu files encore moins. Quand c'est juste toi puis tu manges du Kraft Dinner, tu te dis un jour l'avenir sera meilleur.
Puis il y en a qui vont aussi se pousser par cette condition-là, qui vont devenir extrêmement riches parce qu'ils vont travailler, développer.
C'est
d'entreprise.
Quelqu'un qui me dit « Salut, je suis maman à la maison depuis quelques années. Je suis dans la marde pour ma future retraite. Mon conjoint, lui, est crissement bien placé pour sa retraite. Marie-le. Marie-le.
Aime-le.
S'il sauve.
Si tu l'aimes,
c'est lui qui est dans la marde.
Mais tu sais, à 65 ans, on a une chance sur quatre d'atteindre le 95. Pour plusieurs, ça va être un 25-30 ans de retraite. Ça prend énormément d'argent et ça prend à peu près 30 ans pour cumuler cette retraite-là. Ouais. C'est pour ça, dans le fond, qu'on se dit, pourquoi il faut commencer de bonne heure? Ben, c'est parce que ça prend 30 ans de cumuler une retraite.
Là, il y a des syndiqués qui m'écrivent. En fait, une syndiquée qui m'écrit pour me dire, là, j'attends toujours ta demande en mariage. Oui, ça sera pas long, j'arrive ce soir à la maison.
Mais tu sais, moi, je parle des syndicats des fois sur le podcast et je vais pas créer de l'émoi, faites-vous-en pas. Mais je dis, ben, tout le monde devrait être syndiqué pour être tout le monde égaux ou pas du tout. Mais là, t'as une gang qui a une protection, t'as une gang qui en a pas.
Oui.
Le Québec est séparé en deux. T'as une gang qui fait vivre l'autre gang.
Puis au travers de nos impôts, on engraisse leur fonds de retraite.
36 % des Québécois ne payent pas d'impôts avec les retours, les contributions, les prestations, allocations, etc. Il y a une gang qui paye pour l'autre gang.
Oui. Salut, j'ai 26 ans. Je suis capable de mettre 1 200 $ plus ou moins par mois en investissement.
J'te... OK, t'habites-tu encore chez tes parents?
Je te salue, man.
Ben, c'est ça.
Si j'avais été... Là, c'est mes études, là, mais sinon, là... J'aurais été intelligente là, sur un moyen temps. Là. Je n'aurais pas collé jusqu'à 26, par exemple, mais ça, j'ai pas de critique du tout. C'est juste que me connaissant, à un moment donné, j'aurais voulu ma liberté.
Ouais.
Sauf que ces jeunes-là sont chanceux. Là.
Comme toi, Yann, partant en logement à 16 ans, j'en ai mangé des ramen. Ouais, moi, c'était des Kraft Dinner, puis j'avais pas de lait. Fait que je mettais de l'eau. Ça goûtait le flux. mais maintenant, je me suis pris en main. J'ai 33 ans, 4 enfants, j'ai une maison. Wow. Ma vie va très bien sur la construction.
Ouais. Bravo.
Ça, c'est un travail. Ça. Comment on fait pour s'évaluer? Mettons que je regarde Pascal, là, puis j'essaie d'évaluer sa valeur nette. Là. Faut que je me fie sur quoi? Comment elle vaut?
Aïe.
Regarde au bout de main, je ne veux pas la vendre contre des chameaux. Là. Je veux que tu me dises sa valeur nette.
10 dromadaires, voyons.
Mais t'as juste à lui de demander.
T'y donnes combien? T'y donnes combien pour le masseur?
Il y a quelqu'un que je connais pas qui vient d'arriver dans la fenêtre. Là. T'attires du monde étrange. Là.
C'est ma vie.
Ben, la valeur nette médiane au Canada est 297. Celle moyenne est plutôt autour de 700-800 000. C'est quoi la valeur nette?
Oui. Je fais comment pour évaluer ma valeur nette?
Tout ce que t'as, moins tes dettes, la différence. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de valeur nette. Ils ont une valeur négative.
Donc, il faut que j'informe que mes gars, ils n'auront rien de suite. Là.
Ben, tu vends tout demain, tu payes tes dettes, il reste combien?
Okay. Fait que même si tu as hypothèque et tout ça, si tu le vends...
Ben, la différence là, de ce qui va te rester dans les poches. Là.
Je sais pas combien exactement, mais je sais que je suis dans le plus. Mais j'ai longtemps été dans le moins. Là.
Ah oui, puis tu serais probablement avec comme bien du monde. Là, les valeurs nettes sont souvent négatives. On calcule aussi, pour la retraite, pour la valeur nette... là. On calcule aussi les fonds de retraite qui sont quand même non négligeables. Ouais. Dans
mais je
pense
que c'est la maison aussi qui nous sort de la merde.
La maison, c'est 50 % ouais, c'est de la valeur.
Fait que Pascal, tu ne vaux pas cher.
Non, je ne vaux rien finalement. Et... C'est ça que tu es en train de me dire.
Et tu sais,
j'avais dit 3 chameaux, mais c'est plus chameau. Non!
Portez-vous.
Chien de ruelle.
Hey, j'ai la valeur. J'ai la valeur moyenne des propriétaires. Ça, c'est moyen.
À la recherche d'un fonctionnaire.
Ça, c'est valeur, quand on dit valeur moyenne, faire attention, là, parce qu'il y en a, c'est 10 millions. Là. Vous comprenez que les plus riches tirent la moyenne vers le haut. J'ai pas le médian, mais j'ai le moyen. 685 000 au Canada pour les propriétaires, alors que les locataires, c'est 24 000. On parle de valeur nette moyenne au Canada.
Ouais, c'est parce que quand tu es locataire, t'as pas d'hypothèque, là. T'as rien.
Ben, tu cumules rien, puis souvent, tu fais pas de placement en plus.
Sauf que, dans les dernières années, puis tu sauras peut-être me l'expliquer, là, mais il y avait des gens, peut-être que c'est dans des journaux un peu plus à gauche, mettons La Presse, là, qui mentionnaient qu'il y en a qui étaient mieux de ne pas avoir de maison, puis d'habiter en loyer, puis de faire de l'épargne en loyer, puis aller arriver.
L'investissement.
Kiff.
Mais officiellement, c'est plus payant d'investir que d'être propriétaire, mais il y a personne qui le fait. Ceux qui sont locataires, qui investissent autant, là, la différence, puis de prendre un loyer le minimum et d'investir tout le reste au bout de 30 ans, effectivement, ça devient plus rentable. Il n'y a personne qui le fait.
Ouais, parce que pour te dépanner un loyer, c'est pas si pire que ça, mais rester 20 ans en loyer,
c'est une question de confort, à
l'enrichissement de quelqu'un d'autre. Ouais. Là.
C'est une question de style de vie, de confort, parce que de l'immobilier, en moyenne, c'est 3 à 4 % par année cumulé. Alors que les marchés peuvent nous offrir entre 5 et 6 et 7 et 8 % cumulables par année.
Ouais. Parce que, tu sais, la maison, oui, c'est un gros investissement, mais c'est de l'investissement forcé qui prend de la valeur année après année.
Faut que tu restes à quelque part.
Puis oui, faut que tu travailles tout le temps. T'sais. En fin de semaine, là, je regardais samedi, je me suis dit, c'est le mois de mai, on ne coupe pas les pissenlits, mais les pissenlits sont longs. Les voisins sont partis en voyage, ils ne me verront pas.
C'est la journée des abeilles.
J'ai passé à la tondeuse. Puis après ça, j'étais allé chercher de l'engrais. Ça m'a coûté 65 ou 70 piastres d'engrais chez Canac. Là. Mais tu sais, je sors quand même de l'argent de mes poches qui est du vide, en fait. Ça va se transformer en gazon, tout ça.
Ouais.
Mais la maison, c'est un actif que tu as. Fait que c'est 50 % de ta valeur nette, tu dis.
Oui, puis faut pas compter, là, je vais dire de quoi qui va peut-être être frappant, mais faut pas compter sur la maison pour la retraite. Ça va peut-être aider pour une couple d'années, mais tu feras pas 25 ans de retraite sur une maison.
Là, il y en a qui viennent de monter le son parce qu'il y en a énormément d'une certaine génération, 50 en montant, que c'était ça. Leur projet de retraite, c'est de vendre la maison.
Oui, mais tu vends ta maison, mettons, même si tu avais 500 000, c'est 500 000 dans tes poches, tout était payé, de la patente. Là, tu te reviens de bord, tu vas chercher un condo locatif sur le Bourgneuf à 2 200 $ par mois, parce que là, tu as la salle,
faut
puis
tu
as le gym, puis tu as la piscine, puis tu as les services, puis c'est bien correct. Puis j'espère qu'il va se payer du luxe un peu. Mais fais ton calcul, à un moment donné, tu n'en as plus là, d'argent, là. Ça passe vite, là, à coup de... Ouais. Tu vas payer quoi? 25-30 000 de loyer à toutes les années.
Tu sais, parce qu'il y a des boomers
qui... Tu vas diminuer ton montant rapidement.
Il y a des boomers qui nous écoutent, là, qui ont payé leur maison entre 40 puis 70 000, là, dans les années 80, début des années 80.
Tout à fait.
Puis c'est arrivé la semaine passée pour un agent immobilier, une maison que la dame avait payée avec son mari. Son mari était malheureusement décédé. Dans les années 80, je pense que c'était 48 000. Puis ils l'ont revendu 635 000 $.
Okay. Oui. Mais on part de 48 000 plus taxes, frais, intérêts pendant le nombre d'années. Il faut faire un calcul comptable.
Oui, je comprends.
Mais écoute,
mais mettons qu'ils l'ont acheté. Mettons qu'ils ont dépensé pour 100 000. Là.
Mettons que ça arrive à 200 000, ils ont quand même 400 là, ou 400 quelques. Je comprends, là. Non, 400, je comprends ton point.
Puis là, la dame est autour de 70 ans.
Mais ça peut se vider vite.
Correct, là.
Mais ça peut quand même se vider vite.
Ben,
là,
ça va très
rapidement. Tu fais pas d'argent parce que là, tu t'attends à vendre ta maison au moment où tu vas vouloir prendre ta retraite. Donc, tu as un certain âge. Donc, tu peux pas faire de capital sur des investissements pendant aussi longtemps que tu aurais pu pendant ta carrière.
Exact.
C'est ça qui est fascinant. Ouais.
Mais ça descend rapidement, puis surtout si tu as 30 ans de retraite à faire.
Juste faire un petit aparté, Charles-Étienne nous écrit au 418-971-1021 par texto, il y aura un camion qui est en position jackknife, donc une mise en portefeuille, Bertrand, à la sortie du pont La Porte, dans l'embranchement de la 20 Ouest et de la 73
Sud.
J'ai ça
pour toi.
Si vous avez plus d'informations, textez-nous 418-971-1021. Si vous avez des photos aussi, envoyez-nous ça.
Oui, photos, ça peut être intéressant, Robert.
Par Messenger, par exemple.
C'est vrai que c'est à l'auteur de l'accès de la... autoroute 20 Ouest, la voie de droite qui est bloquée, la voie de gauche qui est partiellement entravée. L'accès vers l'autoroute 20 Ouest, là, la voie de gauche qui est entravée, il y a l'accident qui est là. Par contre, effectivement, j'ai pas savoir, y a-tu des blessés, y a-tu ci, y a-tu ça. Ça fait 16 secondes exactement que ça a été tweeté.
Fait que c'est ça. La dame était pauvre, tu sais, dans le truc que je te donne, là, elle a acheté la maison dans les années 80. Elle était pauvre. L'augmentation des taxes municipales, il a fendu les jambes. Puis là, ben, elle a vendu sa maison, puis elle tombe avec un certain montant dans son compte en banque. Elle tombe avec 600 000 piastres dans son ouais. compte en banque. Là. Fait que là, elle n'a plus de stress financier jusqu'à la fin de ses jours. Fait que oui, son immobilier, Pascal, c'est son fonds de retraite.
Elle a quel âge?
70.
Ah, 70,
puis okay. elle travaillait encore. Elle travaillait, ouais. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais elle travaillait dans le communautaire. Mmh. C'était au salaire minimum. Puis elle le faisait pour se désennuyer puis payer justement ben les ouais. taxes municipales puis les frais de la maison.
Elle a encore une capacité de générer des revenus.
Mais là, elle peut arrêter, à 70 ans, en vendant sa maison puis en allant vivre en RPE, elle peut bien vivre jusqu'à la fin de ses jours. Ça y soulage d'un stress.
Oui, ça, c'est sûr que ça va l'aider cognitivement aussi. J'ai eu l'impression qu'il va y avoir un boom de maisons bigénérationnelles aussi. Un genre de
« Hey,
papa, maman, j'achète ta maison, mais on va te faire un loyer en bas plus petit. Tu n'auras pas à t'occuper de tout ce qui était la maison. Moi, je suis pas capable d'y aller par moi-même. On va faire ça ensemble. » Il y a des gens qui nous disent, justement, qui habitent avec leurs parents. Entre autres, quelqu'un qui dit « J'habite avec ma mère, mais c'est une maison qu'on a achetée à deux. On met 1100 $ par mois chaque pour l'hypothèque, hydro, Internet, les taxes. Je fais l'épicerie 90 % du temps. Je fais 50 % de la nourriture et je m'occupe à 100 % du dehors. » Donc, c'est leur entente ensemble. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un boom de ce genre de truc-là. J'ai un de mes amis qui a aussi acheté sa maison. Il y a un loyer en dessous. Il a acheté une autre maison avec sa mère ouais. pour lui permettre...
Des bigénérationnels?
Pas celle-là, dans le fond. Mais il est dans un investissement dans les ouais. deux pour donner un coup de main, justement, pour la fin de la vie de sa mère. Ouais. Puis elle a arrêté de travailler. Ça lui coûte moins cher la retraite. Puis il y avait une possibilité. Il fait des bons salaires et tout ça d'avoir ce type d'investissement.
Il y a des gens qui ont des grands terrains, exemple à Val-Beurre, où tu as vu ma maison, là, oui. en arrière, c'est un super de grand terrain que j'ai avec une forêt derrière. Si je voulais installer une mini-maison
une maisonnée, tu
pour
pourrais.
Mes enfants, exemple, oui.
Ben, je
pourrais le faire oui. maintenant avec la nouvelle réglementation.
Le genre de type cabanon, là?
Ouais, c'est ça. Une ouais. mini-maison. Faut que tout soit dedans, la douche, les tuyaux, tout ça. Faut que tout que tu fasses passer les tuyaux, mais tu as le droit de le faire maintenant.
Oui, la Ville de Québec. Tous les services peuvent être disponibles pour une deuxième maison, dans le fond, sur le même terrain. Ouais. Mais vous ne serez pas surpris. Puis c'est bien ce que tu disais, Pascal, par rapport à le prendre soin aussi de nos aînés, mm-hmm. puis tout ça. Puis évidemment, chez nos baby-boomers, et là, la statistique, ça marque entre 55 et 74 ans. J'étais un peu offusqué. Je ne suis pas un baby-boomer, je suis un X. Baby boomers, c'est un petit peu plus, mais si on les regroupe, c'est vraiment eux qui ont 50 % de la richesse totale au Canada là, en ce moment. Ce qui est normal, avec le temps, ce sont les plus âgés qui ont cumulé. Les X, nous en sommes, pas Pascal, toi, Yann, avec moi, nous en sommes des X. Et les X sont en effervescence parce que souvent, les X ont commencé dans une période difficile, les années 90, la récession. Certains vieux X des années 80, avec les taux d'intérêt élevés, il n'y avait pas de job, taux de chômage élevé, etc. On a passé des périodes très difficiles, des achats, des acquisitions de maisons où ça a pris 7, 8 ans, 9 ans avant que ça prenne la valeur. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai une maison, ça faisait 7 ans, je l'avais, avec ce que j'avais mis dessus. Je ne pouvais pas vendre plus cher que ce que j'avais payé 7 ans avant. Ce n'est pas vrai que les maisons augmentent tout le temps. Là, en ce moment, c'est assez exceptionnel. Mais en cours de route, avec le temps, tout s'est amélioré. On se retrouve avec des situations fort intéressantes. Et les baby-boomers, eux autres, là, les vieux baby-boomers, il y a des jeunes baby-boomers, ils ont 65, ouais. mais les vieux ont 80, 80 quelques. Ce sont les prochains à partir. Hein. La vie, c'est ça. La vie étant ce qu'elle est, on arrive tout à un point à un moment donné. Et il va y avoir un transfert important. On pense que c'est très loin, ça va se faire graduellement, mais il va y avoir un transfert important de richesses immobilières et de richesses aussi en argent.
Il y en a qui attendent ça.
Des transferts énormes.
Il y a des jeunes là, qui attendent ça en se disant « Moi, j'ai pas besoin de... » Puis là, j'en fais pas de majorité. C'est des discours très isolés que j'ai entendus. Mais jamais dans ma tête, c'était concevable de réfléchir comme ça. Après, est-ce que je vais être dans le jugement? Pas du tout. Si c'est leur façon de voir les choses, ça a été des discussions faites avec leurs parents ou... Mais qui attendent ça. Et qui se disent, j'ai pas besoin de temps à investir parce que ce qui arrive suite à la mort de mes parents. Puis on voyait aussi dans la tradition juive hassidique, là, oui. un genre de je prends une assurance sur mes parents pour à leur mort encaisser. C'est une tradition oui. qui se veut. Après, si c'est éthique ou morale selon vos façons de voir, c'est une autre chose. Mais mm. ça, c'était bien, bien, bien populaire chez eux. Je sais pas si c'est encore le cas, mais on recule pas de si loin parce que c'était une façon de s'enrichir. Puis eux, ils voyaient que monétairement, c'est un avantage de prendre une assurance vie sur la tête de leurs parents. Ouais. Mais je voyais que c'est un peu la même... La corrélation, pour moi, était là, de se dire, j'ai pas tant besoin d'investir, je vis ma vie, la vida la loca, parce que ce qui s'en vient à la mort de mes parents, c'est catching dans le coffre.
À le transfert du patrimoine.
Ouais. C'est-tu moi qui est sotte? Ou... ou c'est
là,
spécial.
Tu viens de réaliser que tes parents, ils sont riches, puis tu vas hériter toi aussi.
Non,
t'as plus besoin de marier un fonctionnaire.
Mais jamais, c'est pas concevable dans ma tête. Ben non, puis encore plus, là, je suis comme dépenser votre argent, puis tu sais, moi, j'aurais pas l'héritage du prince de Galles, là. C'est pas ça qui va attendre, mais pour vrai. Fait que probablement que c'est ça, mais tu sais, j'ai de la misère. Puis peut-être que c'est ça, peut-être qu'on n'a pas une tête assez sur l'argent financière, mais on dirait que les morales sont tellement forte, tellement éthique comme questionnement que j'ai la misère à entendre ça, moi.
Effectivement.
Je sais pas où vous positionnez, toi.
Ben, moi, c'est plus j'ai plus peur pour la génération de mes enfants. Là,
parce que ça ne pousse pas à travailler.
Une fois que tu vas avoir cette génération-là qui se dit, ben moi, je vais juste être un parasite puis je vais hériter de l'argent de mes parents, il va-tu en rester pour tes petits?
Pour tes petits, puis pour toi. Il y a un gars dans la construction, OK, là, mon ami allait accoucher. Son chum est en parentalité, OK? Il arrête pas de se faire appeler. Parce qu'il y a des gars qui ne se présentent juste plus sur le chantier. Ils disent pas qu'ils viennent pas, ils disent pas qu'ils sacquent leur job là, ils s'en foutent, ils partent, mais sans le dire. Ça aussi, c'est une catégorie de travailleurs. Puis c'est à réfléchir. Puis on avait la discussion, les filles, ensemble, vendredi dernier, puis on se dit, hey, moi, j'ai pas d'enfant, là. Mais comment est-ce qu'on on éduque la valeur du travail si c'est si simple avec l'héritage, c'est si simple avec la finance qui s'en vient, avec des familles qui se sont enrichies d'une manière, qui ont travaillé avec la sueur de leur front, avec des parents qui ont mal partout parce que dans le temps, tu avais ta job, puis tu devais aller travailler, puis quand t'en avais une, tu la gardais parce que t'en trouveras pas une autre aussi simplement. Ouais. Je veux trouver le juste milieu puis la zone grise, mais on dirait que ça me choque. Je viens choquer. De
mais
ça.
J'espère, ce que tu dis, j'espère que c'est anecdotique. Parce que j'ose croire
moi,
que
c'est... Moi,
je pense
que oui,
j'ose
que c'est anecdotique.
Que, parce qu'on est porté à généraliser des fois, puis les jeunes sont pas fiables, tout ça. J'ose croire que c'est vraiment des exceptions, puis qu'on a quand même une génération qui s'en vient, qui va être d'une certaine façon fière. Mais il y en a qui
parlent... Parce que c'est pas anecdotique pantoute.
Mais toi, tu penses que ça peut, ça peut être assez généralisé?
Oui.
Moi, je sais qu'il y a des gens qui nous entendent dans leur milieu de travail, dans leur commerce, puis ils disent bien, écoute, j'essaie de m'engager, j'ai des jeunes, ça ne rentre pas, c'est pas fiable, ça n'appelle pas. Puis j'aime pas ça entendre ça, j'aimerais ça croire le contraire. Ouais.
Parle avec un notaire, là. Ben, d'ailleurs, t'as probablement un notaire depuis longtemps. Là.
Oui.
Mais parle avec lui là, des histoires d'horreur qui se déroulent devant lui lors de la lecture
des successions,
des testaments et tout ça. T'sais, t'as le gars, t'as l'enfant qui a tout le temps travaillé extrêmement fort, puis que le père l'a remarqué en disant « c'est à toi que je donne l'entreprise ». Puis t'as l'autre à côté qui disait « quand mon père va péter, il va me donner la moitié de l'entreprise ». Finalement, il se ramasse avec 5%. Des chicanes de famille qui partent de là, là.
C'est un peu le reflet de la société aussi. Hein?
Ben oui,
la série Succession, ça se régalait. C'est sur une des plus riches familles aux États-Unis, en fait, dans le monde des médias. Mais ça déchire tout ça. Ce que Yann évoque, c'est vrai. Mais là, on est dans l'exagération. Sauf que ça se passe ici aussi.
Mais l'argent
fait... Il y a des parents qui veulent pas laisser ça. La compagnie a un enfant qui ne travaille pas. On a une pièce auto-économique, là, Martin, là, à chaque fois qu'il vient nous voir, Yann... À quel point il dit non, mais mes enfants, ils passent par le bas des postes. Il faut qu'ils montent les échelons.
Ah oui.
C'est pas vrai qu'il va commencer.
Mais vous n'avez pas idée des fortunés qui sont stressés avec la succession, justement. Puis pas juste la succession, de transférer l'entreprise, le reprenariat, etc. C'est la succession. Ils ont quelques millions dans une gestion, là. Puis il dit comment je vais distribuer ça. D'abord, l'impôt, comment je vais gérer. Puis deuxièmement, comment je vais distribuer ça. Puis il y a tout le temps quelqu'un, une famille qui a 3, 4, 5 enfants, il y a tout le temps un, là-dedans, on dirait qu'il y a une statistique, mais il y a tout le temps un qui ne doit pas avoir ce montant-là. Mais ils vont avoir chacun 1 million.
Oui, puis il y en a qui se rattrapent, ils n'ont jamais été proches de leurs parents comparativement à d'autres dans la famille, puis ils vont se rattraper dans les 6 derniers mois de vie parce que le monsieur tombe malade, puis là, ils vont être proches du monsieur, puis ils vont c'est peut-être eux autres qui vont être les légataires testamentaires ou c'est peut-être eux autres qui vont avoir un plus haut pourcentage parce qu'ils ont aidé papa dans les derniers
absolument.
Mois
mais
de vie.
Mais tu sais, l'argent, ça fait du bien ou l'argent, ça fait du mal, ça dépend toujours du contexte. Puis le bonheur, l'argent fait le bonheur jusqu'à 103 000.
Ouais.
Mais en au-delà de ça, ça donne plus rien d'en avoir tant que ça. Mais,
103 000, mais
c'est la statistique. On est rendu à 103 000 US.
Quelqu'un nous écrit « Je suis préposé aux bénéficiaires et c'est une situation régulière de voir une famille se déchirer au-dessus d'un lit d'un parent même pas encore décédé pour l'héritage.
Ouais. » C'est triste, mais c'est vrai.
Puis les RPA sont très au fait de ça. Et quand il y a quelqu'un qui décède, la porte est barrée puis il n'y a aucun membre de la famille qui a le droit de rentrer dans l'appartement.
Parce qu'il y en a qui iraient chercher. J'ai même pas de mal à croire.
Puis après ça, c'est le notaire qui rentre dans la danse. C'est qui a accès à l'appartement? Qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement? Y a-tu des bijoux et tout ça? Ah. Et RPA, il y a des RPA que c'est très, très sévère. Là.
Puis ça, en espérant que le mandat de protection ou le testament a été fait en bonne et due forme et a été révisé aussi avec un codicille, par exemple, parce qu'il faut vraiment être à jour.
88-971-1021. Si on a un notaire ou une notaire à l'écoute qui veut nous parler là, de genre de cas, on pourrait changer la voix. Là. Si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, on peut jouer avec notre système, mais si vous avez des histoires anecdotique à nous raconter. On ne veut pas être dans le sensationnalisme, mais on veut savoir ce qui se passe dans votre bureau, par exemple.
D'après moi, les notaires sont occupés à utiliser des mots compliqués que personne ne comprend.
Ah.
Les notaires sont dans le jus avec les hypothèques présentement parce que c'est assez compliqué.
Oui.
Pour ceux et celles qui font l'acquisition d'une maison présentement, c'est assez difficile de trouver un notaire disponible là, dans les prochaines semaines, je vous le dis tout de suite. Mais c'est tellement important, un notaire, pour mettre toutes les choses en ordre, que vous soyez riche ou moins riche ou moins... Il y a quand même beaucoup de choses à tu sais, puis c'est toujours plate d'en parler parce que...
Mais c'est une profession qui va disparaître, les notaires.
Qu'est-ce qui va arriver si vous perdez vos inaptitudes? Qu'est-ce qui va arriver si vous décédez? Qu'est-ce qui va arriver si... Tu sais, vous êtes de tout voir un peu ces imprévus-là qui sont très tristes, mais de prévoir ce qui va arriver.
Ça va être l'intelligence artificielle, probablement. Là.
Tu penses?
Ah, oh, pas mal certain.
Pourtant, il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité là-dedans, même si ça parle beaucoup
de notaire, il n'a jamais vu un notaire sensible.
Non, non, dans la situation.
C'est des sans-cœurs.
Dans la situation.
Tu généralises, Yannick Marceau.
Sais-tu comment tu fais dans une foule pour reconnaître le notaire? Mettons, une foule de 20 000 personnes, sais-tu comment tu fais pour reconnaître le notaire?
Non.
Il vient te le dire. Salut, Pat. Podcast financièrement parlant, c'est là qu'on te retrouve?
Oui, on s'amuse. Puis on parle à des notaires aussi.
Parle-eux.
Moi, je les aime, moi.
On te rejoint la semaine prochaine. Salut,
salut,
Pat. Vulgaire machin et obsolète sur Boulevard Ronvier. Ah, on est en train de parler d'histoire de notaire. Compliqué, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété financière pour leurs vieux jours.
Ça écrit beaucoup. En passant, merci de vous confier à nous. Puis au moins, on se retrouve tous à un moment ou à un autre dans ce bateau-là.
Il n'est jamais trop tard pour faire des moves.
Jamais.
Là, je sais que des fois, vous entendez des planificateurs financiers qui, tu sais, quand on dit « Ouais, mais là, j'ai pas placé d'argent, j'ai 55 ans. » Puis là, ils sont là. Mais
on va mourir seul dans la ruelle.
Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé.
Oui.
Vous avez une maison, vous pouvez faire des placements. Vous pouvez vendre cette maison-là, acheter un genre de 4-5 logements, bonifier vos affaires, passer par un planificateur financier, un bon comptable, puis les notaires là, qui ont de l'air un peu bêtes.
Mais honnêtement, faire ces petits changements-là là, peut vous faire éviter. Il y a quelqu'un qui a dit « J'ai changé de comptable pour la première fois cette année, je ne paie pas d'impôts. » Quelqu'un qui avait un salaire, somme toute, dans le même range d'année après année. Pour une raison X, la nouvelle personne qui travaille pour elle a été capable de lui faire éviter ça.
Ouais, on s'en reparlera dans 2-3 ans si le ministère du Revenu...
Revient! La charge!
Revenu! Moi, ça m'est arrivé.
C'est pas ça.
Ils sont rentrés une fois dans ma vie puis ils m'ont vraiment stressé. Là, j'étais encore au cégep à l'époque. Puis,
ça, c'est spécial,
écoute, ils croyaient pas que je pouvais avoir 3 emplois puis que je pouvais être au cégep.
On a parlé de ta situation.
Il avait raison de douter que je pouvais faire les 4 en même temps parce que je n'étais pas souvent à l'école. Mais pour le reste, quand ils rentrent dans ta vie, tu as une multitude de papiers à donner. Puis là, toi, ça fait comme 2-3 ans là, que tu as placé ces papiers-là. Tu ne sais pas trop où ils sont.
Ça t'a appris à être vraiment classé maintenant. Hein, dans tes papiers, c'est par filière. Quand ta comptable te demande des papiers, ça se trouve rapidement. Ta poste est classée.
Tu sais quoi? Je sais qu'elle peut écouter des fois, là, mais l'enveloppe mauve qu'elle me donne... T'as-tu eu ton enveloppe mauve, toi?
J'ai pas d'enveloppe mauve encore.
Bon, l'enveloppe
Est-ce
mauve
on fait
qu'elle
ça autrement?
Me donne, elle met une date dessus, ben c'est tout le temps bien classé, un par-dessus l'autre.
Mais c'est elle qui l'a classé.
C'est elle qui l'a classé. Hey, tu voulais me parler d'une série?
Oui.
Ça s'appelle Empathie,
La meilleure série québécoise que j'ai vue depuis un bout. Puis là, je sens que je suis pas unique et pantoute dans mon commentaire. Ça fait réagir énormément. Là. Tout le monde a le même discours. Puis si vous commencez le premier épisode, vous dites « Ouh! Ça va être trash, ça me tente pas. » Laissez-vous le temps. Empathie, pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un hôpital psychiatrique avec une psychiatre qui, elle, a un passé assez particulier. Travaille avec la police à un moment donné dans le genre de « On a une intervention, quelqu'un en crise, des gens pourraient mourir, on amène une psychiatre sur les lieux, puis elle doit gérer cette intervention-là pour faire le moins de blessés possible, le moins de grabuges possible. » Il arrive un événement, échange de travail, puis elle s'en va travailler justement dans les couloirs d'un institut psychiatrique. Puis là, ça pogne tellement, parce que c'est excellent, vous ne verrez que du feu dans le jeu des acteurs. Florence Delompré, extraordinaire comédienne là-dedans. Tu vas voir des Benoît Brière, tu vas voir... Je te le dis, Yannick, c'est époustouflant.
C'est sur Crave.
C'est sur Crave. Et on s'est attaché dans les dernières semaines à ces personnages-là de la série Empathie. Puis ça a poussé Radio-Canada aujourd'hui à offrir un article sur leur site parce qu'ils sont allés faire un tour pour voir si, dans un des hôpitaux psychiatriques qu'on a ici, soit celui à sécurité maximale, l'Institut Pinel, c'était une fiction, ce qu'on voit dans la série, où ça se rapprochait de la réalité. Puis ils ont jasé, entre autres, avec le psychiatre qu'on connaît, le docteur Gilles Chamberlain, qui est souvent dans l'actualité et tout ça. Là. Et on parcourt un peu le quotidien de ce psychiatre-là entre les murs de l'Institut national de psychiatrie, qui est légal, Philippe Pinel, à Montréal. Et souvent, tu parles, Yannick, de ces causes-là qui... criminel, se fait juger, se fait envoyer en prison, n'a pas les soins adaptés à sa condition, à Philippe Pinel, la fermeture des lits en psychiatrie, etc., etc. Puis, crime, la série Empathie serait assez réaliste au sujet, soit les patients qui se trouvent, puis à la situation de chacun de ces patients-là dans la série. Okay. Fait qu'on est vraiment proche de la réalité.
Il y a une auditrice qui m'écrit « Tellement la meilleure série québécoise que j'ai vue de ma vie. J'ai travaillé en santé mentale et c'est exactement ce qui se passe dans les milieux psychiatriques. C'est juste wow. Des fois, je ris et je pleure dans le même épisode. »
Même chose. Puis ça nous fait nous questionner aussi sur nos jugements fondamentaux. Tu sais, puis ça vient compliqué quand on fait le métier qu'on fait, Yannick, parce que... Tu te veux tranchant, mais tu te ramasses dans la zone grise assez vite parce qu'en plus, là, tu vois des cas qui se peuvent. Mais quelqu'un qui a tué, par exemple, OK, dans son passé, puis qui arrive dans l'institut psychiatrique, puis t'apprends tout sur son passé, qui a été brusqué, chamboulé, que des gens l'ont maltraité, qu'il y a des abus physiques, des abus sexuels peut-être sur cette personne-là, puis ça crée le personnage qui se rend à tuer, arrive entre les murs, puis t'as une douceur de psychiatre qui gère la situation, mais de façon assez rigide aussi pour que tu prennes ta médication. Puis à un moment donné, tu t'attaches au personnage, tu ne lui pardonnes pas ses gestes, mais tu comprends d'où elle vient. Puis là, ça revient aux filets sociaux, puis ça revient à comment est-ce qu'on se traite l'un envers l'autre. Est-ce qu'on pousse des gens, des fois, nous, dans notre... T'sais, on peut être méchant, là, en tant qu'enfant, là.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut se dire, crime, j'ai peut-être scrappé une partie de la santé mentale d'un jeune que j'ai côtoyé parce que j'étais pas capable de faire la différence entre un commentaire qui n'a pas de sens.
Ça doit faire réfléchir. Pascal, il y avait un camion qui était en mise en portefeuille, là, donc qui a fait un jackknife à la sortie du pont Pierre-Laporte dans l'embranchement de la 20 ouest et de la 73 sud. Est-ce que ça a été réglé?
Moi, j'ai pas ça encore comme règlement. Au contraire, j'ai encore plus de non-fluidité sur les réseaux sociaux à la hauteur justement de l'accès vers l'autoroute 20 ouest. C'est toujours la voie de droite qui est bloquée, la voie de gauche partiellement entravée.
Véro s'en vient avec Audrey dans les prochaines secondes. Moi, je vous dis à tantôt, 18h, je serai en compagnie de Samuel Tremblay-Michaud, notre chroniqueur automobile. Puis toi, je te dis à demain.
À demain.
Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Ciao. Boulevard 102.1. Marceau le midi.